Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Bonjour. Il faut que je démarre l'enregistrement. Le tabernacle d'adoration, il est basé sur toute l'histoire de l'Ancien Testament, sur la réalité de ce que David a mis en place, de ce que Moïse a instauré, mais aussi beaucoup sur la suite à donner à cela. Et la suite, elle est prophétisée dans ces deux textes. Amos 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Alors, il y a plusieurs interprétations à ce texte. Hein. Certains, ils attendent de reconstruire littéralement le temple. Et à Jérusalem, si vous allez vous promener, il y a même un endroit, un musée, où ils disent le nouveau temple, le troisième temple. Et il y a des plans, il y a une vitrine, il y a une maquette du temple. Et les juifs orthodoxes, les juifs pratiquants, hein, qui pratiquent l'Ancien Testament encore, ils veulent reconstruire un nouveau temple, tel quel. Ils ont déjà les plans, ils ont déjà tout. Et ils pensent que simplement, Dieu va refaire comme avant. Il ne va pas changer. Il va refaire l'ancien temple, et ils vont offrir les sacrifices, etc. Mais je crois aussi qu'on peut comprendre cela, puisqu'on est dans une époque du Nouveau Testament, une époque aussi prophétique, une époque où on applique les principes de la parole. Vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'image de ce qui va s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et que beaucoup de choses qu'ils ont vécues réellement sont des signes prophétiques que nous pouvons vivre aujourd'hui. Donc, quand on parle de combattre l'ennemi, on ne va pas sortir de l'église avec nos épées et puis les couper en morceaux. Hein. On parle de combat spirituel, donc c'est une image spirituelle. Pourtant, il y a tant de textes qui nous parlent. De la même manière, je crois que ce tabernacle, c'est une image spirituelle. Il ne s'agit pas de reconstruire un temple, de faire l'autel des parfums, l'autel des sacrifices, d'amener les animaux dans le temple, non. Mais spirituellement, bien sûr, on va bâtir cet autel et ce tabernacle comme Dieu l'avait bâti. Et à l'exemple de David. Et acte 15, versets 14 à 18, nous le dit bien. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur nos nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tombe de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, à qui elles sont connues de toute éternité. Donc l'idée du tabernacle d'adoration, c'est de reconstruire, de relever quelque chose qui était détruit, et particulièrement la tombe de David. Donc si on réfléchit à David, on analyse la vie de David. Et qu'est-ce que David a construit durant sa vie? La chose principale qu'il a construite, c'était le temple, mais surtout l'esprit qu'il y avait dans le temple, c'est-à-dire les Lévites, l'adoration dans le temple 24 heures sur 24. On a lu ça dans les chroniques. David a commencé, dès le début de son règne, il a appelé des hommes, il a dit « Maintenant, vous allez rester là jour et nuit, vous allez louer et adorer. » Et ça n'a pas cessé durant tout son règne. Et c'est le seul règne, le seul roi, pendant lequel, le règne duquel ça a toujours continué. Après, il y a des fois, ça s'est arrêté, des fois, ça a recommencé. Mais je crois que cette prophétie des actes, eh bien, elle est en train de s'accomplir aujourd'hui. Et il y a beaucoup de situations où Dieu est en train de parler à son peuple de relever cette maison. Et en voyageant un petit peu, je vois que c'est une parole que depuis 10, 15 ans, que tout le monde entend partout, que tout le monde essaye de comprendre et de mettre en pratique. Et que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose à reconstruire dans l'esprit de la louange, dans l'esprit du tabernacle de David, c'est-à-dire un endroit où on l'adore d'une manière constante. On ne fait pas juste un petit culte, mais on va plus loin que ça. Hein. Et ça, c'est le but de Dieu, parce que ça, c'est à l'image de ce qui se passe dans le ciel. On a lu dans l'Apocalypse, la louange dans le ciel, l'adoration dans le ciel, ça continue. Ça a commencé une fois, mais on ne sait pas quand ça a commencé. En tout cas, depuis qu'on existe, ça continue, et même quand on ne sera plus là, ça va continuer. Donc, cette adoration continue, Dieu l'attend, Dieu l'espère. Alors, pourquoi? La question, c'est pourquoi il faut bâtir un tabernacle? Dieu aurait pu nous dire de faire autre chose. Hein? Alors, on va voir certaines choses. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un tabernacle? Je crois qu'une des choses claires, c'est que c'est la présence de Dieu. Un trône. Psaume 22, verset 3. « Pourtant, tu es saint, Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc Dieu vient habiter le tabernacle, vient habiter l'endroit qu'on lui prépare. C'est comme si tu as un invité chez toi, tu lui prépares une chambre, un lit, tu dis voilà, j'ai préparé la chambre pour t'accueillir. Mais je crois que le tabernacle prépare la place pour Dieu. Alors quoi de plus important pour nous que Dieu vienne? Comment bâtir une église sans s'attendre à la présence de Dieu? Et pourtant, il y en a qui le font. Hein? Il y en a qui ont des idées très, très réfléchies, très posées sur des notions théologiques peut-être, où ils pensent qu'ils veulent juste construire une église pour expliquer des choses aux gens, mais qu'ils vont le faire eux-mêmes, et que c'est eux qui vont bien le faire avec leur intelligence, et que c'est une intelligence qui parle à une autre intelligence. C'est la sagesse des hommes qui parle à l'intelligence des hommes. Mais moi, je crois que ce que nous avons besoin, ce que nous voulons, c'est la présence de Dieu au milieu de nos cultes, au milieu de nos réunions, au milieu de nos louanges. Et c'est la dédicace de Salomon, voilà ce qu'il prie, après avoir compris que Dieu était descendu dans sa présence, dans le trône, il dit, et il prie devant tout le peuple, « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. » Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsque nous prierons en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Ça, c'est une belle prière, n'est-ce pas? Hein? On demande vraiment que, Seigneur, on a fait tout ça pour toi, ben maintenant il faut que tu viennes, et il faut que tu répondes, et il faut que tu écoutes, parce qu'autrement ça n'a aucun sens. Alors bien sûr que là c'était lié à la dédicace du temple, maintenant on sait que dans le Nouveau Testament on n'est plus lié à un lieu, même si les lieux sont nécessaires pour se rassembler, on peut faire cette même prière partout. On peut la faire ici dans cette salle de classe, on peut la faire dans la nature, on peut la faire dans un groupe de prière, dans une maison, on peut la faire dans une grande église ou dans une salle publique où Dieu va venir. Mais c'est une attente, je crois que c'est ça, l'esprit du tabernacle, c'est l'attente que Dieu vienne, écoute ce qu'on fait dans ce lieu. C'est-à-dire nos louanges, notre adoration, mais aussi notre intercession. Comme on l'a vu, la louange conduit à l'intercession. Hein? Quand tu loues, comme Esaïe, il était touché, il a reçu un fardeau pour son peuple, il s'est mis à prier pour son peuple, et à être prophète pour son peuple. Et Dieu répond à cela dans le chapitre 9, après, juste après, en Roi 9. L'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Quelle merveilleuse dédicace. Hein? C'est mieux que le président ou le maire qui se déplace pour dire « Bravo, vous avez fait une belle église. Hein? » Et qu'il y a une photo dans le journal et on dit « Voilà, le maire s'est déplacé pour l'inauguration de l'église qui a démarré ici. » S'il y a la dédicace de Dieu, s'il y a la présence de Dieu qui peut répondre de cette manière-là, alors ça vaut la peine, alors c'est juste. La présence de Dieu est confirmée parce que nous vivons ici. Le tabernacle, cela démontre, pour moi, la bonne priorité. Parce qu'il y a tellement de choses importantes. Et je suis sûr que c'est une des choses parfois pas faciles à gérer quand on fait des études comme vous faites. On apprend beaucoup de choses et tout est important. Tout est nécessaire. Et il y a tellement de choses qu'on dit, ah là, je peux apprendre ça, et puis je peux apprendre ça, et puis ça c'est important, et puis il faudrait que je fasse ça. Et quand on se trouve à la responsabilité d'une église ou d'un groupe de prière, on commence par quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Je vais leur expliquer ça, puis ça, puis ça. On aurait peut-être 50 messages à faire, et puis il n'y en a qu'un dimanche par semaine. Hein. Peut-être encore l'école biblique, mais il y a beaucoup de choses à enseigner. Et à dire. Mais on commence par quoi? C'est quoi la priorité? Moi, je crois qu'une des priorités, c'est justement commencer par la vie spirituelle. Donc, la vie spirituelle qui se manifeste par l'adoration. Pour moi, l'adoration, ce n'est pas une option. Comme sur certaines voitures. Hein. Bon, là, je prends cette option. Non, moi, je ne la prends pas. Et certaines églises prennent l'option, malheureusement, pour ou contre la louange ou l'adoration. Ah, c'est pas important. Passons vite à ça, à autre chose. Hein. Alors que je crois que ce n'est pas une option. C'est fondamental. En tout cas, dans la vie d'Israël, c'était fondamental. Dans la vie du tabernacle, c'était fondamental. L'adoration continuait. Et tout ce qui était fait était posé sur l'adoration. Et je suis sûr que vous avez fait l'expérience. Essayez de prêcher une foule sans adoration ou avec une adoration puissante qui amène la présence de Dieu. En tout cas, moi, j'entends beaucoup de prédicateurs. Moi-même, je prêche, mais beaucoup de prédicateurs qui me disent « Ah ben, c'était bien plus facile de prêcher après ce temps de louange. Hein? » J'ai senti que les cœurs étaient ouverts. J'ai senti qu'il y avait une présence, qu'il y avait une ouverture qui me permet de rentrer directement au cœur des choses. Alors que parfois, ils sont dans des situations où il n'y a pas de louange, il n'y a pas de musicien, rien. Ils doivent commencer comme ça, à froid, et c'est beaucoup plus dur. Hein? Donc, je crois que l'adoration, ce n'est pas une option. Ça montre qu'il n'y a pas de séparation entre le naturel et le spirituel. Ce tabernacle montre que le spirituel est important, mais en même temps, le fait que ça soit 24 heures sur 24, ça veut dire que c'est tout le temps, comme on respire, comme on dort, comme on mange, comme on vit, eh bien, Dieu aussi est là dans toutes ces choses-là. Toute notre vie est englobée dans l'adoration et la présence de Dieu. Nous, on n'est pas capable d'adorer 24 heures sur 24 tout seul. On ne peut pas. On n'a pas les forces, on n'a pas les ressources, et Dieu ne nous a pas demandé ça. Mais grâce au travail communautaire, à l'échange, au partage des uns des autres, le fait de savoir que nous, nous arrêtons peut-être pratiquement la louange, mais que d'autres continuent, ça nous aide à rester dans cet esprit de louange. Quelle est votre attitude si vous arrivez dans un culte et que la louange a déjà commencé? Ben, peut-être vous allez déjà remarquer que vous êtes en retard, hein? Mais surtout, vous allez être beaucoup plus vite captivé et rentré dans ce qui se passe. Que si vous arrivez 30 minutes avant et qu'il n'y a pas de louange, que les choses s'installent, on discute, on parle et on est quelque part déconnecté. Et quand la louange se met en route, ça nous connecte à Dieu. Et certaines églises, elles ont trouvé cette habitude de commencer la louange avant le culte même. Ça évite beaucoup de bavardage, beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui nous éloignent, qui ne nous amènent pas de la bonne direction. Alors imaginez que dans votre église, il y ait 24 heures de louange. Vous arrivez à 6 heures du matin, à 7 heures du matin, à 8 heures du matin, à 9 heures, il y a toujours quelqu'un qui loue et qui adore. Imaginez la prédication qui commence à 10 heures et qui a déjà eu 4, 6, 8, 10, 12 heures de louange avant la prédication. Vous imaginez la différence? C'est beaucoup plus fort. Parce que les gens sont conscients de la présence de Dieu. Les gens ne sont pas en train de parler de toute autre chose, de discuter. Et il y a quelque chose qui se passe. Ça nous connecte à Dieu. Donc ça montre que c'est pour moi un fondement pour tout le reste, une pierre solide pour notre bâtiment. Encore une fois, c'est une image spirituelle. Hein? On veut un bâtiment spirituel qui soit solide, une église forte. Je crois que ça sera un fondement de baser et d'encourager les gens à l'adoration, de leur expliquer ce que c'est, de les mettre en responsabilité face à leur adoration devant Dieu. Parce que ce n'est pas la question d'avoir juste des bons musiciens, un bon groupe de louanges qui fait tout, et puis les gens sont des spectateurs. Et puis ça devient un supermarché ou un cinéma où les gens viennent consommer. Hein? Mais une adoration où les gens sont participants, bien sûr. Et il y a beaucoup d'exemples historiques. L'histoire a été marquée par des situations telles que celle-ci. Par des tabernacles qui se sont construits chaque fois que l'Église a trouvé un renouveau, que l'Église s'est réveillée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup, beaucoup plus de louanges et beaucoup plus de prières, bien sûr. Ce n'était pas un devoir. Chaque renouveau spirituel amenait un renouveau de la louange. Si vous lisez dans l'histoire, si vous regardez à quelle époque il y a eu tout d'un coup des nouvelles églises qui se sont créées, et bien en même temps, il y a eu des nouveaux chants. Vous pouvez voir dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle histoire. Quand l'armée du salut, par exemple, pour prendre un exemple historique, a démarré, ils ont commencé, ils faisaient de l'évangélisation dans les rues, dans les endroits difficiles, et ils se sont mis beaucoup à chanter. Hein? Et pour que les gens soient intéressés, ils prenaient même les mélodies des chants du monde et ils changeaient les paroles. Au lieu de dire « ma chérie est belle, je l'aime », ils disaient « mon Dieu est grand, je l'aime ». Ils changeaient tout. Mais ils gardaient la même musique et les gens écoutaient. Et ils se sont mis à révolutionner la manière de chanter et de toucher les gens par la louange. Et ils ont même amené des fanfares. À l'époque, la fanfare, c'était le monde. C'était les militaires, c'était les soldats, c'était des groupes de fanfares dans une société, dans un village. Mais surtout pas les chrétiens. Les chrétiens, ils étaient enfermés dans l'église avec leur orgue. Hein? Et tout d'un coup, voilà des gens qui prennent les instruments et qui sortent avec et qui vont jouer. Les gens étaient choqués. Et même les chrétiens les critiquaient. Ils disaient, c'est pas bien ce qu'ils font. Puis aujourd'hui, on s'est habitué. Vous voyez les salutistes devant un magasin qui jouent à Noël avec trois trompettes. Hein? Puis on dit, bah, c'est normal, c'est les salutistes. On s'est habitué. Mais quand ils ont commencé, ils étaient révolutionnaires. Leur chant était révolutionnaire. Et ils ont amené une différence dans leur société grâce à ce qu'ils avaient compris, quoi. Et vous avez l'exemple aussi de tout le mouvement missionnaire. Peut-être vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec les frères Moraves, au XVIIIe siècle, à Erfurt, en Allemagne. Ces gens-là ont dit, on va commencer à prier pour la mission. C'était les premiers missionnaires. Hein. C'est le conte de Zinzendorf. Si vous avez l'occasion d'étudier cela, je vous encourage parce que c'est très, très riche. Et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester entre eux. Il fallait qu'ils envoient des missionnaires. Alors qu'à l'époque, il y avait très, très peu de missionnaires. Ils ont commencé à prier, ils ont dit on va prier une semaine. Après, ils ont dit mais c'est tellement bien de prier, on va continuer. Ils ont dit ben, on va continuer un mois. Puis ils ont continué après toute l'année, et jour et nuit, c'était un couvent, un centre de retraite, par des frères Moraves, qui est une église très très engagée avec des gens très consacrés. Cette réunion a continué, et elle a duré plus de 100 ans, non-stop. 100 années non-stop, jour et nuit, ils ont prié et intercédé. Et ce lieu existe toujours en Allemagne. Maintenant, depuis une dizaine d'années, pas mal de gens ont commencé à regarder dans l'histoire et ont compris qu'il s'était passé vraiment quelque chose là-bas. Et c'était le début du mouvement missionnaire. Ils ont envoyé beaucoup de ces gens qui étaient dans ces réunions de prière. Ils ont entendu l'appel de Dieu et ils sont partis comme missionnaires dans plein de pays. Beaucoup ne sont même jamais revenus. Beaucoup sont morts parce qu'à l'époque, hein, les transports, les maladies, les guerres et tout, il n'y avait pas toutes les sécurités et l'organisation d'aujourd'hui, mais ils ont donné leur vie, ils ont consacré. Mais je crois que ce qui a été porté, c'était la prière, la louange et l'adoration qui les envoyait. Donc on est en train de redécouvrir ça et beaucoup de gens vont voir là-bas pour comprendre ce que Dieu avait fait. Et il y a d'autres endroits où ça s'est passé dans l'histoire, on pourrait parler longtemps de ça, mais je crois que quand Dieu agit, eh bien, on a envie de continuer, on n'a pas envie de s'arrêter, quoi. Hein? Et déjà vu, quand il y a la présence de Dieu tellement forte, on n'a pas envie que ça s'arrête de rentrer à la maison, on veut continuer. Puis des fois, bon, pour toutes sortes de raisons raisonnables, on s'arrête. Alors peut-être que d'une manière ou d'autre, Dieu va nous donner les moyens de continuer. Hein? Et dans toutes les églises où il y a un réveil, même actuellement dans les années, ou il y a quelques années en arrière en Argentine, plusieurs églises ont vécu un tel réveil que ça a explosé au niveau du nombre de personnes. Ils avaient pourtant des grandes églises de 10 000, 15 000 places. Mais il y avait 150 000, 200 000 personnes à l'église. Comment on fait? Hein? Ils ont dit, on va faire 2 cultes, après on va faire 3 cultes, après on va faire 4 cultes. Finalement, ils ont fait 7 cultes le dimanche. Et puis, il n'y avait pas assez de place le dimanche. Ils ont dit, on va faire des cultes le lundi. Ils ont fait 7 cultes le lundi, puis après 7 cultes le mercredi, puis le jeudi. Puis finalement, tous les jours de la semaine, il y avait des cultes. Puis finalement, ils ont dit, on va faire où l'étude biblique? On sait qu'on va faire la réunion de prière, etc. Ils ont dit, ben, on va faire la nuit. Donc, ils font la nuit. Et finalement, une seule église s'est trouvé avec un tabernacle, parce qu'il y avait tellement de chrétiens et pas assez de place, que c'était, même chez Yonkisho en Corée, vous connaissez, hein, une immense église, il a 1 million de fidèles. L'église est grande, elle a 35 000 places, mais c'est petit pour 1 million. Donc ils disent aux gens, vous avez le droit de venir seulement une fois au culte. Pas le droit de venir deux fois, hein. Toi tu fais le culte 1, toi tu fais le culte 2, toi tu fais le culte 3, toi tu fais le culte 4, etc. Et ils changent 35 000 personnes en 15 minutes. 35 000 qui sortent et 35 000 autres qui rentrent. Services de sécurité, policiers, etc. À gauche, à droite, sortez, entrez, sortez, parking, tout. Super organisé, mais ça continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça montre, quand il y a le réveil, quand il y a le feu de Dieu, on ne peut pas l'arrêter, hein, et ça ne s'arrête plus. Alors, bien sûr qu'on n'est peut-être pas encore là, mais c'est une bonne perspective de dire, ok, quand c'est qu'on va être dans ce tabernacle, qu'on va pouvoir l'adorer non-stop? Qu'est-ce qui se passe dans ce tabernacle? Alors, je crois que c'est une autre chose très importante. On est unis autour de Jésus pour bâtir sa maison, son temple et sa vision. Quand tu es dans l'adoration, c'est des petites images pour rigoler. Hein. Attention, je ne fais pas des icônes et j'adore pas les images. Hein. C'est juste comme ça, pour vous inspirer un tout petit peu. C'est Jésus qui devient vraiment le centre. Quand tu adores, c'est plus l'église, c'est plus la théologie, plus la culture, pas les activités. C'est valable pour ton église, mais aussi sur une ville ou sur une région. Quand tu convoques les chrétiens, si tu convoques les chrétiens pour un débat théologique, qui c'est qui va venir? Tu vas trouver 12 pasteurs, 15 anciens et 3 ou 4 personnes intéressées. Tu arriveras à 40 personnes, tu seras heureux. Hein? Si tu rassembles la ville pour louer Dieu et célébrer Dieu, tu peux rassembler 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes. Hein? Selon ben, le niveau de la foi des chrétiens dans la région. Mais ça montre, on peut pas s'unir à tous les niveaux. On va jamais être d'accord sur toute la théologie. Hein? Et Dieu, je pense qu'il est plus grand que ça. Mais quand on va se retrouver au ciel, on va pas discuter de théologie. On va pas faire un café théologique. Hein? Même si c'est important, même si c'est important dans des convictions et de savoir ce qu'on croit et pourquoi on le croit, ça je suis convaincu. Mais en même temps, il y a un niveau sur lequel on peut s'unir. On aime Jésus, Jésus est notre sauveur, Jésus est notre Seigneur et on va l'adorer. D'accord ? Donc ça, c'est la clé du tabernacle. On se dit au moins, on est là tous pour Jésus. Et quand tu es là pour lui, tu l'adores, tu laisses de côté un petit peu les autres choses. Alors bien sûr, des fois, il y a des discussions sur la forme, sur le style. C'est trop fort, c'est pas assez fort, c'est trop long, c'est pas mon chant préféré. Bon. Mais avec un tout petit peu de maturité, tu dépasses ce stade-là. Tu dis, c'est tellement bien d'être ici pour adorer Jésus. Et ça t'aide même à rencontrer des frères que tu n'avais jamais rencontrés. Même des frères qui ne sont pas de la même église que toi. N'est-ce pas ? Ou des frères que tu ne pensais pas que tu pouvais adorer avec eux, d'une autre langue, d'une autre culture. Mais c'est 100% biblique, justement. D'être là, de toute langue, toute culture, de toute race. On l'a vu, c'est tellement important. Donc Dieu nous unit dans sa présence. Et le tabernacle nous aide. Chacun cesse de construire sa petite maison. Bien sûr qu'on peut construire nos petites maisons. Et que c'est important d'avoir un lieu où on reste, autant au niveau personnel, familial, qu'au niveau de l'église. Je ne crois pas que Dieu dit il faut plus qu'une église, plus qu'un bâtiment. Mais en même temps, je crois que vraiment Dieu a un peuple. Hein? Quand on va se présenter devant lui, on ne va pas se présenter avec notre carte de la dénomination. On va se présenter avec notre carte d'enfant de Dieu, adorateur, serviteur de l'Éternel. Dans Agé 1, verset 1 à 9, il y a ce texte qui je trouve très fort. C'est un prophète, un petit prophète, comme on l'appelle. Je ne sais pas s'il était petit en taille, mais juste parce qu'il a écrit que quelques lignes. Il était tout aussi grand peut-être que les autres. Il est écrit... Agé 1, verset 1 à 9. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shéatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en six mois. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de repartir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel le fut adressée par Agé, le prophète, en six mois. Vous savez, aujourd'hui, on entend ça aussi. Quand vous dites aux chrétiens, mais c'est le moment maintenant de se rassembler. C'est le moment de prier. Oh, c'est pas le temps. Hein? C'est le moment d'avoir un moment de prière ensemble. Et toujours, il y a toujours quelqu'un qui va dire, c'est pas le temps. C'était avant. C'est fini. On verra. Il y a toujours des excuses là. Hein? Et c'était la même chose déjà là, à l'époque. Et quand il parle, alors le prophète là, il parle avec autorité. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié de l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Ça, c'est une parole qui est forte. Hein? Et je crois que David, lui, il a mis ça en pratique. Avant de construire sa petite maison à lui, il a construit le temple. Et je crois que c'était un très bon exemple spirituel pour nous de comprendre que la priorité, c'est de se donner pour la maison de l'Éternel et que c'est ça qui va amener la bénédiction sur nous. Sur nos vies, sur nos familles, sur notre église locale et même sur notre nation. Il y a des nations entières qui préfèrent construire leur vie égoïste, personnelle, alors que Dieu nous appelle à construire sa maison. Donc ça peut être vraiment construire pratiquement une église, mais surtout c'est la maison spirituelle. Encore une fois, on explique les choses d'une manière spirituelle. Nous avons besoin de construire un temple spirituel, un lieu où on accueille le Seigneur. Et ce lieu, ben, c'est peut-être plus que simplement notre église. C'est un lieu... où vraiment il est totalement acquis, accueilli au nom de la ville, au nom de la nation, au nom de la population. On dit, Seigneur, viens habiter les louanges de ce peuple. Et je crois que là, c'est intéressant parce qu'il y a des conséquences. Il parle des conséquences négatives. Parce que vous ne construisez pas la maison de l'Éternel, ben, vous travaillez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Ça sert à quoi, finalement? Ça sert à quoi de manger puis tu as encore faim? Il y a un problème. Ça sert à quoi de boire et tu as encore soif? C'est la même chose qu'on retrouve cette déclaration qu'on avait vue par rapport à l'idolâtrie. Hein? On adore une statue qui a des yeux, mais on voit rien. On adore une statue qui a des oreilles, mais on n'entend rien. Donc les conséquences d'une vie sans Dieu, d'une vie avec une adoration qui n'est pas au bon endroit, ça mène toujours les choses qui ne se passent pas. Ça mène la malédiction. La malédiction, c'est qu'on s'attend à quelque chose et puis ça n'arrive pas. Ou on s'attend à rien et puis il y a un problème qui nous arrive. Alors que la bénédiction, c'est tu reçois ce que tu t'attends. Tu travailles et tu reçois le salaire. C'est ça que Dieu veut pour nous. Hein? Donc, je crois que c'est ce qu'il veut. Si on veut cette bénédiction de Dieu sur la cité, sur la nation, sur la ville, c'est important de construire la maison de Dieu. Donc, je ne crois pas une super méga église au milieu de la ville qui soit plus grande que toutes les autres. Hein? Mais je crois à des rassemblements où Dieu met toutes les églises ensemble. Je crois que Dieu a une église sur un pays, sur une ville. Et quand on se met ensemble, on construit sa maison et on accueille sa présence. Et on va au-delà de nos limites, de nos différences, et Dieu va faire quelque chose de grandiose dans ce moment-là. Chaque fois que j'ai pu participer, c'est mon privilège en tant que responsable de louange, d'être là souvent pour des rassemblements extra-communautaires ou de plusieurs églises, je vois une bénédiction, une approbation de Dieu. Une bénédiction qui découle rapidement déjà sur les hommes qui sont là. Parce que tout d'un coup, des gens qui ne se parlaient plus commencent à se parler. Des gens qui étaient séparés commencent à se retrouver, à se redécouvrir. Comment tu peux critiquer un frère avec qui tu adores? Par contre, si tu es dans ta maison et lui, il est dans sa maison, tu ne vois pas comment il adore. Toi, lui, il ne voit pas comment tu adores. Et tu peux le critiquer et dire, je ne sais pas s'il prie bien, si c'est un bon chrétien, je pense que sa théologie est fausse. Et tu le méprises. Alors que si tu viens avec lui et qu'ensemble vous levez les mains vers le Seigneur, ça va faire tomber beaucoup de barrières. Et ça va te permettre de... Dieu va approuver cela et mettre sa bénédiction. Donc nous comprenons bien dans la vision néo-testamentaire que nous sommes le temple. Donc il ne s'agit pas de nouveau construire des pierres. Nous sommes le temple. C'est nous. Donc on doit quitter la mentalité du bâtiment mort pour devenir un temple vivant. On a vu ça dans Romains 12. Hein. Nous sommes un sacrifice vivant. Et c'est intéressant parce que le mot temple, qui est naos, vient du mot demeurer. Et ce mot-là était utilisé pour le sanctuaire ou le lieu saint. Bien qu'il y ait différentes parties dans le temple, il y avait les parvis, on aurait pu garder un autre mot. Le mot qui est resté, c'est le mot qui parle du sanctuaire et du lieu saint. Donc c'est le mot principal, finalement. Le temple, c'est l'endroit où Dieu demeure. C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas un endroit qu'on visite. Aujourd'hui, les gens ils viennent en Europe voir les temples, mais ils viennent les visiter. Ils viennent visiter même quand c'est vide. Ils ne viennent même pas visiter quand il y a une réunion ou un culte ou une messe. Ils viennent visiter quand c'est vide. Ils viennent faire des photos. Hein? Ils disent c'était beau, il y avait des beaux vitraux, il y avait des belles pierres, il y avait des beaux bancs. Mais il ne se passe rien, il n'y a pas de présence là. C'est juste le vide. C'est même... Peut-être le souvenir qu'un jour il y avait la présence de Dieu, parce que pour construire de tels bâtiments, il y a eu une action du Saint-Esprit, une œuvre de Dieu. Il ne l'aurait pas fait sans ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, notre mentalité, ce n'est pas d'aller dans un temple, mais c'est de demeurer, de rester et d'être le temple. Et en Corinthiens 6, 19, vous le connaissez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous avez et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, le temple est mobile. Le temple, il a deux pattes. Il a deux pieds. Le temple, il bouge, il se déplace. La présence de Dieu nous accompagne et nous habite en tout lieu. C'est ça que Dieu veut. Même si on a encore des rassemblements dans des temples de pierre, la clé, c'est que nous sommes le temple. Et que nous nous déplaçons. Et ça, c'est une stratégie divine. C'est puissant. Parce que sa présence, comme ça, peut aller partout, grâce à vous, grâce à moi. Il n'y a pas de forêt qui soit impossible à atteindre. Il n'y a pas de tribu qui soit impossible à atteindre. Il n'y a pas d'extrémité de la terre. Si on devait dire aux gens qu'ils doivent tous venir dans le temple de Jérusalem, ça serait compliqué. Il y aurait des embouteillages à Jérusalem. Hein? Même avec les avions, même avec les bateaux, même avec les voitures. Si tout le monde devait aller à la Jérusalem, regardez ce qui se passe avec les musulmans à la Mecque. Hein, tout le monde va là-bas, et ben ça fait des grosses affaires peut-être financières, mais ça fait aussi beaucoup de problèmes. Et chaque fois, il y a même des morts là-bas, ils se marchent dessus. Et c'est terrible comment ça se passe. Ils doivent y aller une fois dans leur vie. C'est encore un régime de l'Ancien Testament. C'est encore un régime ancien. C'est encore un régime légaliste. Il faut, sinon tu ne peux pas. Aujourd'hui, Dieu ne te dit même pas d'aller dans le temple. Tu es le temple. Et sa présence veut demeurer en toi. quoi de mieux pour ta protection, pour ton onction? Tu dis, oh là là, j'ai pas été au temple, j'ai pas été à l'église la semaine dernière, ça va pas aller cette semaine. Mais non, tu es le temple. Et l'église, c'est plein de petits temples qui viennent dans le temple. C'est drôle. C'est des petites voitures qui viennent dans une grosse voiture. C'est des petites personnes qui viennent sous une grande personne. Mais en même temps, les petites personnes se déplacent et bougent. Et l'onction de Dieu vient. La lumière de Dieu est là, sa présence est là. Donc, il faut vraiment que notre mentalité évolue. Je ne vais pas à l'église, je suis l'église. Je ne vais pas au temple, je suis le temple. Partout où je suis, au travail, au bureau, à la maison, au supermarché, je suis le temple. Donc ça va changer ma mentalité. Donc je peux adorer Dieu là. Donc je peux louer Dieu là. Donc je peux le bénir là où je suis. Hein? C'est merveilleux de pouvoir être dans sa voiture, rouler dans un pays et prier. N'est-ce pas? C'est encore plus fort que d'être enfermé dans une salle, au sous-sol, où on est en train d'intercéder et puis qu'on a les yeux fermés pendant 2 heures. Alors que tu te promènes dans la nature, tu marches, tu vois un endroit, tu peux prier pour cet endroit. Tu peux adorer dans cet endroit. Tu dis, Seigneur, viens habiter ce lieu, viens habiter cette maison. Et de plus en plus, je crois que l'Église a commencé à comprendre ça, grâce à des mouvements comme les marches pour Jésus, où Dieu a invité les chrétiens à sortir leur mur et aller dans les rues. Et vous savez qu'au point culminant des marches pour Jésus, il y a eu, je crois que c'était en 2001, ou je ne sais plus exactement, mais il y avait en tout cas plus de 15 millions de personnes qui louaient Dieu en même temps dans les rues du monde, dans toutes les capitales. Hein. Et puis ça continue. Il y a des réunions de prière, Global Day of Prayer maintenant, journée mondiale de prière, dans des stades, dans des rassemblements, où des milliers de personnes vont. L'église est trop petite, ils vont dans le stade de foot, c'est très bien. Hein. En prenant l'exemple de Yom Kippour, ils fêtent chaque année une journée nationale de prière pour le pays. Alors ils louent le stade, parce que leur église est trop petite. Donc ils louent le stade qui a été construit pour les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Ce stade, il a 200 000 places. Donc c'est déjà un très grand stade, un des plus grands du monde. Hein. Mais pour l'église de Yom Kippour, il est trop petit. Rien que pour une église, il est trop petit. Donc il dit aux gens, vous pouvez venir prier seulement 8 heures. Au bout de 8 heures, vous sortez. Après, c'est les autres qui viennent 8 heures. Ils font 24 heures de prière dans le stade. Et même les gens ne peuvent pas rester 24 heures. Ça, c'est la puissance de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. Pour les hommes, ce stade, c'est le plus grand stade du monde pour tous les Olympiades du monde entier, de toutes les nations. Ils rassemblent les journalistes, les officiels, les artistes, les sportifs du monde, pour le monde entier. Et une seule église de la même ville, pour lui, c'est trop petit. Donc Dieu est bien plus grand, hein, plus grand que ce qu'on peut connaître, nous, ou ce qu'on imagine parfois. Mais ces nouvelles-là, on ne les dit pas tellement dans les journaux. Hein. On parle toujours de grands événements, alors que c'est des petits événements à côté des événements du royaume de Dieu. Et Dieu rassemble son peuple et met des grandes foules dans l'adoration aujourd'hui. Il faut simplement qu'on ouvre un petit peu les yeux et qu'on voit ce que Dieu est en train de faire. Et ça va se passer. La pause, c'est I5. Donc, on va faire la pause et on reprend tout à l'heure. C'est aussi un Le tabernacle, c'est aussi un témoignage devant les hommes et les nations. Et ça, c'était quelque chose qui était primordial pour David. Et bien sûr, Salomon, et ce que Dieu voulait aussi faire. Regardez ce qui est écrit dans Michée 4, versets 1 à 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Donc déjà du temps d'Israël, les gens allaient au temple. Alors on prend ça, c'est l'histoire, c'est l'historique. Ils allaient à un endroit précis pour adorer. Maintenant, on prend ce temple et on sait qu'il s'est déplacé. Ça veut dire que les gens, ils vont plus forcément à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, mais ils vont à l'endroit où on se rassemble pour louer l'Éternel. N'est-ce pas? Et non seulement les Juifs y allaient, mais la parole prophétise que les peuples et les nations y vont. Alors aujourd'hui même, si on prend dans le contexte réel de la vie, dans l'histoire, les gens vont à Jérusalem pour visiter. Ils vont visiter les vieilles pierres, ils vont voir le temple. Et c'est le revenu principal d'Israël aujourd'hui, c'est le tourisme. Ils ont plusieurs millions de visiteurs chaque année. Donc Dieu utilise ça aussi et Dieu bénit cette nation au travers des touristes. Et j'étais dans une conférence, j'ai entendu le ministre du tourisme qui était là, il a dit, vous les chrétiens, venez en Israël, c'est un témoignage. C'est puissant quand vous venez en Israël, vous témoignez devant les nations que vous n'avez pas peur. vous témoignez que Dieu a fait quelque chose dans ce pays. Et c'est un ministre juif qui disait ça. Et vous témoignez qu'on peut encore voir quelque chose d'intéressant dans ce pays et que vous êtes avec nous. Donc c'est important. Donc ça, c'est peut-être, même si c'est que historique, même si c'est qu'une visite, il se passe quelque chose. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a été à Jérusalem ou en Israël qu'on a une médaille ou un diplôme. Hein? Ça va rien changer pour notre vie chrétienne ou pour aller au ciel. C'est juste pour comprendre certaines choses. Ce qui est merveilleux, c'est que ce temple de Jérusalem, il s'est multiplié sur toute la terre. Maintenant, il y a des temples dans toutes les nations. Et c'est là où les gens se rassemblent et des peuples viennent. Alors en même temps, à Jérusalem, il y a des gens de toutes les nations qui vont voir ce qui s'est passé. En même temps, dans n'importe quel pays, Dieu rassemble des gens d'autres peuples pour sa présence. Donc, les nations sont interpellées par Israël. Regardez ce qui se passe à l'ONU. Regardez ce qui se passe même dans le gouvernement, dans la politique. Israël, c'est à l'ordre du jour toutes les semaines. Tout le monde parle d'Israël, toujours. Pour les nations, Jérusalem et Israël, c'est un problème. Pourquoi ? Plus qu'un autre pays. Il y a plein de pays qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Mais Israël, ça revient toujours. Bien sûr, parce qu'il y a le plan de Dieu là derrière. Il y a la bénédiction de Dieu qui fait que ça interpelle. Donc cette adoration vers l'Éternel interpelle même les nations. Hein? Et ça va continuer de les interpeller. Et ensuite, devant les hommes, bien sûr, et là aussi ça parle des hommes et aussi des peuples et des nations, 1 roi 8, verset 41, c'est la suite qu'on a lu avant de 1 roi où, Dieu, où Salomon priait pour la bénédiction sur cette maison. Et voilà ce qu'il continue de prophétiser et de prier. « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Déjà avec Salomon, ça a commencé, la reine d'Éthiopie est venue voir. Elle était interpellée, elle s'est dit, il se passe quelque chose là-bas dans ce pays, il faut que j'aille voir. Et ce n'est pas juste la beauté de Salomon qui l'intéressait, hein? C'est ce que Dieu était en train de faire. Et après, bien sûr, dans les actes aussi, l'Éthiopien, le ministre de l'Éthiopie qui se déplace pour venir voir. On a les rois mages qui viennent, on a vu ça aussi en Israël pour adorer. Ils ont fait des kilomètres, des milliers de kilomètres pour arriver. Donc, les hommes des autres nations sont interpellés par ce qui se passe dans cette nation. Et je crois que ça, c'est le fruit ou le reflet de ce que l'adoration produit. Les hommes sont interpellés par une vraie adoration, pas par une fausse, pas par la religion, pas par le système. Ça ne les interpelle pas. Mais l'adoration, ça les interpelle. Et une adoration si puissante, si continue, 24 heures sur 24, mais comment ? Comment vous faites ça ? Vous adorez non-stop, même la nuit ? C'est comme ça important de faire ça ? Oui, c'est important. Oui, c'est primordial. Oui, Dieu est vrai. Et même quand on dort, il est vivant. Même quand on se repose. Même d'une autre nation, même d'un autre pays, même d'une autre langue. Et je pense aussi que vous avez été interpellé parfois de voir quelqu'un d'une autre race, d'une autre culture qui adore Dieu. Hein? Moi, la première fois que j'ai entendu un arabe qui loue Dieu et qui chante en arabe des louanges, ça m'a touché. Parce qu'on pense souvent que les Arabes sont musulmans et qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais quand un Arabe se convertit, c'est fort. La même chose, un Juif en Israël, même que c'est le peuple de Dieu, Israël n'est pas encore sauvé. Il y a beaucoup de gens en Israël qui sont même opposés à Dieu. Et il y a beaucoup de Juifs qui sont en résistance. Mais quand un Juif se convertit, on appelle ça des Juifs messianiques. Hein, ils ne disent pas les chrétiens parce qu'il y a eu tellement de problèmes dans l'histoire avec les chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils s'appellent des Juifs messianiques. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le Messie. Mais quand là, ils chantent en hébreu, quand ils prient en hébreu, c'est puissant, c'est fort. Et bien sûr, de beaucoup d'autres régions, beaucoup d'autres pays. Et Dieu utilise cela, les hommes, il touche des hommes de tout peuple, toute race, toute nation. Encore une fois, un reflet de ce qui va se passer devant le trône. Donc le but du tabernacle, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent ou connaissent ton nom pour te craindre. Quand tu crains l'Éternel, tu l'adores. Craindre, ce n'est pas avoir peur. Ouh là là, Dieu existe, je vais me cacher dans un trou. Hein? Non, je respecte Dieu et je le connais. Donc ce tabernacle, c'est un témoignage. Le fait qu'il y avait à Jérusalem ce temple, surtout à l'époque où c'était quand même, il y avait moins de choses sur la terre, moins de bâtiments, moins de choses, c'était un truc extraordinaire que les gens entendaient parler. On y voit, ah, ils ont fait ce temple à cause de Dieu. Dieu existe. Dieu est en Israël. Hein? Et en Roi 8, 60, dans le même chapitre, afin, voilà le but, que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a point d'autre. C'est le but de la louange. Le but de l'adoration. Si les gens disent, bon, ils ont bien chanté, ça ne suffit pas. Mais si les gens disent, vraiment, comme ils ont chanté et comme ils ont prié, il n'y a pas d'autre Dieu. Quelqu'un qui peut dire ça, quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui vient dans une réunion et qui est touché par la présence de Dieu, qui fait cette prière, c'est puissant. Je reconnais que l'Éternel est Dieu. C'est ce que le roi Nebuchadnezzar a dit à Daniel. Hein? Quand Dieu est intervenu, bien sûr, c'était une situation tellement puissante. Il est sorti de la fosse. Hein? Il a été protégé par Dieu. Il est sorti de la fournaise. Et le roi a dit, il n'y a pas d'autre Dieu. Il a reconnu à cause de la manifestation de Dieu. Donc, je crois que le tabernacle, c'est aussi une démonstration de l'autorité de Dieu. Non seulement sur la terre, mais devant les puissances du ciel, les anges, les chérubins, les séraphins, les démons, les pouvoirs, les dominations et les autorités. Éphésiens, il manque le E de Éphésiens 3, versets 10 et 11, qui dit ça très clairement. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Vous imaginez la puissance et l'autorité que Dieu a donnée à l'Église. Pourtant, nous, l'Église, les hommes, on se trouve tout petits face à ce qui se passe dans le ciel. Des fois, on est dépassé. Et pourtant, ces êtres dans le ciel, eux, ils sont confondus et ils connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution. Quand l'Église se lève, se rassemble, adore, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Ben, ils regardent, ils voient ce qui se passe. Et les anges applaudissent. Les anges, c'est nos supporters. Hein? C'est l'équipe A. C'est notre équipe qui va gagner. Les anges applaudissent. Et les autres supporters, l'équipe B, l'équipe de l'adversaire, ils applaudissent pas, ils sont fâchés. Non, ils ont marqué un but, ça marche pas là. Hein? Il faut que notre équipe se réveille. Et eux, ils encouragent leur équipe, les démons, les puissances mauvaises. Allez, détruisez cette église, détruisez ces chrétiens. Qu'ils arrêtent de chanter, ça nous casse les oreilles. On n'aime pas leur chant. Et les anges disent, allez, continuez, chantez, chantez, adorez, priez, louez, intercédez. Ils ont... Non, n'intercédez pas. Vous imaginez ce combat comme ça dans le ciel? C'est ça le combat spirituel, c'est ça la réalité de la vie. Mais ce qui dynamise les encouragements, les chants, c'est ce qui se passe sur la terre. Et les anges vont tout faire pour aider les chrétiens, pour soutenir les chrétiens, pour les encourager. Et eux, ils adorent déjà et ils adorent encore. C'est les chants de victoire, l'adoration. Hein? C'est les chants de supporters. Les vrais supporters, ils viennent avant le match. Ils chantent déjà le jour avant, ils chantent déjà dans le train. Ils chantent déjà dans l'avion, ils chantent dans la rue, ils chantent dans les restaurants, ils arrivent au match, ils chantent déjà avant même qu'il y ait un but, avant qu'il y ait une victoire. Ils sont convaincus que leur équipe va gagner. Et ils savent que l'équipe va mieux jouer s'ils sont encouragés. Hein? Les anges exercent le même ministère envers les chrétiens. C'est les encourageurs, c'est ceux qui nous aident et qui pensent à ce que l'Église va gagner et qui savent que l'Église va gagner. Mais en même temps, ben, l'ennemi... Il n'est pas content de cela, on sait bien. Et il cherche à décourager, à arrêter, à diviser, à détruire, à freiner. Donc, ce n'est pas anodin de faire un tabernacle de louange. Ce n'est pas juste une activité parmi tant d'autres. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année avec l'Église? Réfléchissons. On va faire Noël, on va faire Pâques, on va faire un petit séminaire, on va faire une petite réunion de prière et puis un petit tabernacle. Hein? Non, c'est une réalité spirituel qui a plus, c'est pas juste une activité dans le programme, ça porte du fruit. Notre adoration continue est vue par les puissances qui en sont témoins. Et c'est une manière de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Puisque Dieu nous dit de prier que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Au ciel, il est déjà là le règne de Dieu. Hein? Donc il nous demande qu'il vienne sur la terre. Comment il va venir sur la terre? Eh bien, quand on reconnaît, qu'est-ce qui se passe au ciel? Au ciel, ils reconnaissent que Dieu est Dieu, qu'il est Seigneur, ils se prosternent, ils adorent. Donc, s'attendre à voir la gloire de Dieu se manifester dans son tabernacle. Et on l'a lu ce texte déjà, je vous le cite, 2 Chroniques 5, 13. Dans l'adoration, dans le temple, ils ont adoré d'une manière puissante, dans l'unité. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuée de l'Éternel est descendue dans le temple. Et ils ont arrêté de chanter, arrêté de jouer. Et une deuxième fois dans 2 Chroniques 7, versets 1 à 3, la même chose. La gloire de Dieu descend, le feu, la Shekinah, la kabod, le poids. Gloire, c'est le mot poids, ou Shekinah aussi, ou kabod, surtout ça veut dire poids. Mais des fois, on sent cette présence de Dieu comme un poids. Pas un poids lourd qui nous fait mal, qui nous écrase, mais un poids comme quelque chose. Ah, il y a quelque chose ici. Hein? On sent cette présence. C'est lourd. Et c'est juste, c'est Dieu qui est là. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? On est tous à ses pieds. le résultat de l'adoration, dans l'Apocalypse, c'est ça. Même les anciens, même les dignes, les personnes de dignité, déposent leur couronne et se prosternent à genoux. Et même un païen, même un non-chrétien, un jour, il nous a dit, tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera. Ça veut dire, même celui qui aujourd'hui résiste, il dit, non, qui est Dieu pour que je me prosterne devant lui? Moi, je ne veux pas. Un jour, il va plier le genou. Un jour, il sera obligé de plier le genou. Donc, dans l'adoration, c'est un acte prophétique, finalement, l'adoration. Vous vous rendez compte de ça? Des fois, on met des choses prophétiques comme étant extraordinaires, inhabituelles. Mais juste le fait de se prosterner devant Dieu, c'est prophétique. C'est-à-dire, oui, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui va se passer pour toute la terre, pour tous les peuples, pour toutes les nations. Donc, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas dire que moi, je suis musicien, je reste debout. Hein. Moi, des fois, je me couche, je laisse mon piano et je me mets par terre. Ce n'est pas important. Le piano m'a été utile pour amener les chants, mais après, c'est terminé. Je sais que là, Dieu est présent et que je peux juste me prosterner devant lui. Ce tabernacle, bien sûr, je l'ai déjà dit, c'est un tabernacle spirituel. Donc, Dieu ne nous demande plus de construire un temple de pierre. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des bâtiments et des maisons pour louer Dieu. C'est juste. Mais on fait ces bâtiments sans oublier le but principal, qui est d'adorer Dieu où qu'on soit et à n'importe quel moment. Donc, tout endroit peut être utilisé pour bâtir un tabernacle de louange. Et Dieu va le faire. Et Dieu est en train de le faire. Et je cite exprès des endroits. Ta maison, ton salon, une place, n'importe où, une cave, un grenier, une église. J'aime bien une église comme quelque chose de normal parmi toutes ces choses-là. En Valais, on a les soirées de louange à Martigny dans un hôtel. Et c'est merveilleux parce qu'il y a des gens qui passent là à l'hôtel, qui entrent, ils entendent du bruit, ils viennent regarder. Et on n'a pas de honte à voir. On se dit, oh là là, il y a des non-chrétiens, on va fermer la porte à clé, pas qu'ils voient ça. Non, au contraire. Et je suis sûr qu'eux, ils sont bénis dans cet hôtel quand ils viennent dormir la nuit où il y a la soirée de louange. Je suis sûr que Dieu va les toucher et il va se passer quelque chose. Chaque endroit est propice, mais bien sûr, on prend l'endroit. J'étais au Canada faire une fois une tournée et les gens qui étaient là, qui étaient bien intentionnés, c'était des jeunes chrétiens, ils ont loué la salle des francs-maçons pour faire une soirée de louange. Ils ne savaient pas. Nous, on est arrivé dans cette salle, on a vu, il y avait tous les signes maçonniques, tous les trucs bizarres. On dit, ouh là là, c'était pas, peut-être pas le meilleur endroit. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en courant? Non. On dit, ok Seigneur, tu as prévu cet endroit, on va prier. Et avant la réunion, on a déjà fait la première réunion. On a fait la louange, on a fait le ménage, on a déjà enlevé tous les signes, décroché les tableaux, on a tout mis ça dans un coin. Et puis, on s'est mis à prier, à louer, à intercéder, avant qu'il y ait le public. Et quand le soir, les gens sont venus, on a senti qu'il s'est passé quelque chose. Mais parce qu'on a déjà commencé, puis on a dit, Seigneur, c'est ton lieu, tu viens te glorifier même dans cet endroit. Vous savez, Jésus, il n'a pas peur de n'importe quel endroit, même si ça ne sent pas très bon. Jésus, il a commencé où? Premier endroit de ministère, dans une écurie, dans une étable. Hein? Ça sentait les animaux, ça sentait peut-être même le fumier, il y avait peut-être des mauvaises odeurs là. Et il est né là, il a commencé là. Donc, ce n'est pas un problème pour lui, il n'a pas besoin des 4 étoiles seulement. Hein? Mais on peut aussi aller dans un hôtel 4 étoiles, faire une réunion de prière et de louange, et c'est bon. Que Dieu vienne aussi dans ces lieux-là. Hein? Les hommes d'affaires du plein évangile ont fait beaucoup de réunions dans ces grands hôtels, dans ces endroits assez de haut standing, mais Dieu a touché aussi des propriétaires d'hôtels, des serveurs et des gens qui n'auraient jamais été touchés autrement. Donc je crois que c'est bon d'aller là. Donc je crois que ce qui est en train de naître aujourd'hui, c'est des 24 heures de louange, 72 heures, 100 heures, 24/7, 24 heures sur 24. Et il y a de plus en plus d'endroits où ça se passe. Peut-être que ce n'est pas le cas dans votre ville, dans votre église, dans votre pays, mais soyez attentifs à ce que Dieu fait. Hein? Et en Angleterre, depuis une dizaine d'années, ils ont compris cette vision des 24/7, c'est-à-dire 24 heures sur 24 pendant 7 jours, la louange, la prière. Ils ont ouvert des salles dans leurs églises, ou dans un lieu public, ou dans une école, dans une université, pour rassembler. C'était juste une idée de quelques jeunes, et depuis ça s'est répandu dans tout le pays. Et il y a des centaines, voire des milliers de lieux où des jeunes et des moins jeunes se retrouvent pour prier. Des fois, c'est juste le petit sous-sol d'une église. On dit, on peut pas prendre toute l'église pour ça, mais on va vous donner ce local. Et dans cet endroit-là, il y a des gens qui viennent sans arrêt prier, matin, jour et nuit. Jusqu'au jour où ça sera l'église qui sera comme ça. Il n'y aura plus seulement le culte dimanche à 10h, mais ça va être tout le temps des gens qui prient, des gens qui adorent. Vous imaginez la différence que ça fait dans l'onction, dans le feu, dans ce qui va pouvoir se passer. Donc peut-être qu'actuellement on n'a pas les ressources, les forces, on n'est peut-être pas encore dans ce temps de réveil pour cela, mais c'est le début et ce réveil va venir parce que les gens vont se lever pour prier, intercéder, adorer, jusqu'au point où on ne pourra plus les arrêter. Ça c'est bien. Hein. Ce n'est pas le président qui arrête la réunion parce que les gens ils veulent continuer. Même si le président arrête et lui rentre, les autres ils restent et ils prient, et ils adorent et ils louent. Donc ça va se passer et ça va venir. Donc comment se combattit ce temps spirituel? Voilà, tout simplement, je vous donne quelques idées. Par des louanges et de l'adoration, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Certaines fois, on pourrait dire, on va chanter. Non, on va beaucoup chanter, on va beaucoup prier, mais on va aussi amener de l'intercession, de la prière, du combat spirituel. On réclame des choses de Dieu, on demande et on combat l'ennemi. Par le jeûne est une puissance très forte hein, dans ces temps-là. Peut-être que Dieu va vous demander de sauter un repas d'une manière précise, à des moments précis. Par la proclamation, les lectures bibliques, il y a aussi de plus en plus d'endroits où ils se mettent à lire la parole d'une manière continue. J'ai un groupe d'amis chrétiens, ils ont été sur une place publique et ils sont mis à lire la parole, simplement, en pleine rue, non-stop, lire la Bible. Et déjà là, des gens s'arrêtaient, certains étaient fâchés, certains critiquaient. Pourtant, ils disaient, moi, je suis juste en train de lire. Hein. Et ça montre la puissance de la parole. Et d'autres personnes qui passaient là entendaient juste la parole qu'il fallait et se mettaient à genoux et se convertissaient. Et pas d'annonce de l'évangile, pas de prédication en quatre points, pas d'appel au salut, juste la parole lue dans la rue. Et ça fait la différence. La repentance, l'humiliation, les offrandes, par exemple. Là, je vous ai mis l'adresse d'un site. Je dirige à Yverdon une maison de prière, une maison d'adoration. Nous avons un lieu qui est consacré à ça. On commence depuis, ça fait maintenant 5 ans que ça existe. On n'est pas encore 24 heures sur 24, mais c'est un lieu consacré à la prière, à l'adoration. Et tous les jours, il y a des gens qui viennent prier dans ce lieu. C'est un lieu qui ne dépend pas d'une église, pas d'une dénomination, mais qui est au service de la ville, de la région, de l'église. Et il y en a de plus en plus de maisons comme ça dans le monde qui s'ouvrent. Donc je vous donne un exemple dans lequel je suis impliqué et où on vit des bons temps. C'est des petits nombres de personnes, mais c'est des gens consacrés. Et ça amène. Et chaque personne qui vient là dit... Je sens quelque chose. Je sens la présence de Dieu. Il se passe quelque chose. Et ce n'est pas un lieu de relation d'aide. Ce n'est pas un lieu de discussion théologique. Ce n'est pas un lieu de répétition de musique. C'est vraiment un lieu de prière et d'adoration. Hein? Et on garde cette ligne-là. Et Dieu bénit ce temps-là. Alors, je vais encore vous donner un petit peu la différence entre deux choses importantes. Alors, comment on bâtit le temple hein? Je vais donner plein d'exemples. Donc, chanter, louer, mais aussi intercéder, prier, jeûner, combattre, proclamer, lire la parole, etc. Je donne aussi un exemple. À Paris, ils font les marches pour Jésus depuis des années. Et pendant plusieurs années, c'était très, très difficile. Mais ils ont persévéré. Ils avaient 1 000, 2 000, 2500 personnes. Pour Paris, 15 millions, c'est pas beaucoup. Hein? Mais quand même. Mais depuis 3-4 ans, Dieu a vraiment fait une œuvre. Ils sont arrivés à 18 000, 20 000, 25 000 personnes qui ont marché dans la rue. Et une année, ils ont changé chaque fois le parcours, parce que Paris, c'est une grande ville, et il y a beaucoup d'endroits à bénir et d'endroits où marcher. Et plusieurs années déjà, ils voulaient faire la marche qui départ ou qui arrive à la Bastille. Vous savez que la Bastille, ben, c'est le lieu de la Révolution, ce n'est pas facile. Et une année, plusieurs intercesseurs ont dit, on va aller prier là-bas. Et ils ont fait... 24 heures, lecture de la Bible sur la place de la Bastille, devant la statue de la Bastille. Puis il y a une grande statue en bronze et dessus il y a un ange qu'ils appellent l'ange de lumière. Donc vous savez qui c'est. Hein? Mais les Parisiens, ils disent c'est un bel ange, il est beau, il est doré, etc. Hein? Et puis là, ils ont lu la parole pendant 24 heures. Deux mois après, ils ont demandé l'autorisation pour la marche pour Jésus pour arriver à la Bastille et ils l'ont eu. C'est la première fois. Et l'année d'après, 20 000 personnes qui louait Dieu sur la place de la Bastille. Même les voitures devaient partir. Tellement il y avait de monde, toute la place était prise. Les gendarmes faisaient la circulation et c'était un moment de louange puissant sur cet endroit-là. Donc, Dieu va donner des techniques, des manières de faire, mais soyons prêts à mettre tout ça ensemble. Hein. Il ne faut pas avoir une manière de faire qui est figée, qui est limitée. Dans la louange, l'adoration, moi, ça ne me pose aucun problème si tout d'un coup, je dois arrêter de chanter. Parce que Dieu nous conduit à prier, à intercéder, à se prosterner, à lire la parole ou autre chose. Il ne faut pas que les musiciens soient figés dans leur programme et disent « Non, non, maintenant, moi, je veux chanter. J'ai prévu ce chant. Écoute, il y a la soliste là qui doit chanter. Elle a une belle voix. Écoutez-la. » Non, ce n'est pas le moment du spectacle, de la starac. Hein? Ça, c'est pour une autre fois. Là, c'est le moment de l'adoration et de conduire par l'esprit et de faire ce que Dieu nous dit. Par contre, quand même, il faut être très vigilant parce que l'adoration, c'est tellement clé que l'ennemi, il n'aime pas l'adoration. Ça, vous le savez. Donc, il essaye de détourner l'adoration. Donc, j'essaie de réfléchir comment l'adoration est parfois détournée. Alors, c'est un message que j'intitule « Adoration, puisqu'on a adoration » ou « Adorathène ». Athènes dans l'idée de la pensée grecque. Vous savez que les Grecs, et la philosophie grecque a une grande influence en Occident. Et j'ai vu vraiment la différence entre ces deux philosophies, ces deux pensées, même dans l'Église. Alors, quand tu es dans l'adoration, numéro un, tu adores avec passion. On en a parlé déjà. Tu as de la passion. C'est la passion pour Dieu qui te motive. Quand tu adores Athènes, avec la pensée grecque, tu adores avec raison. Ça veut dire quoi? La raison veut dire, je ne comprends pas ces paroles. Qu'est-ce que tu chantes ici? Là, il y a une faute d'orthographe. Là, recommence. Et c'est toujours l'analyse. Les gens, il y a des gens, ils font que d'analyser les chants, les paroles, l'expression. Pourquoi tu as levé les mains pendant 2 minutes 30 hein? Pourquoi tu me demandes de me lever? Je n'ai pas envie de me lever. Ma raison me dit que je suis fatigué. Alors, quand tu as la passion, tu ne réfléchis pas. Tu es passionné. Comme David, hein, il dansait avec passion. Même qu'il était roi, il n'a pas réfléchi qu'il était roi, qu'il aurait dû normalement être assis sur le trône avec un éventail, avec des serviteurs qui lui lavent les chaussures et qui fait rien. Non, il était passionné. C'est pas la raison. Dans l'adoration, ton seul désir, c'est plaire à Dieu, n'est-ce pas? Tandis que dans l'adorathène, tu veux plaire aux hommes. Et ça, c'est un grand piège. Parce qu'il y a toujours des hommes qui essayent de nous acheter ou de nous contrôler. Hein? S'il te plaît, peux-tu chanter ce chant? Ça, c'est mon chant favori. Puis quand tu es musicien et que tu sais que le pasteur, c'est son chant favori, tu vas faire toujours ce chant pour lui faire plaisir. Mais est-ce que c'est le chant favori de Dieu? Peut-être que Dieu, il dit, mais j'en ai marre de ce chant, hein, depuis le temps que tu le chantes, là. Hein? Ça fait 20 ans que tu chantes à toutes les réunions, à chaque fois la même chose. Tu veux pas changer un peu? Hein? Dieu, il est des fois fatigué de nos chants. Hein? Et il le dit dans la parole. Hein? Dans un prophète, il dit, j'en ai marre de vos chants. Je suis fatigué de vos cantiques. Alors, c'est moi, je préfère plaire à Dieu. Même si des fois, il y a un homme ou deux qui sont peut-être un petit peu fâchés parce que je n'ai pas fait le chant qu'ils voulaient. Les musiciens sont en relation ensemble et avec Dieu. Dans l'adoration, tu es uni pour le même but. Donc, tu es en relation les uns avec les autres, avec Dieu. Dans l'adorathène, c'est la qualification avant la relation avec Dieu ou les hommes. C'est-à-dire, on veut que tu montes tes diplômes, tes qualifications. Est-ce que toi, tu as fait Ibeto? Ah, c'est bon, tu peux chanter. Hein? Ou est-ce que toi, tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça? Est-ce que tu as le titre? Est-ce que tu as la réputation? Mais on ne sait pas même si tu aimes toujours le Seigneur. À tel point que même dans certaines églises officielles, on engage des musiciens sur leurs diplômes sans qu'ils soient même convaincus de la foi. Et je connaissais un organiste qui jouait au temple dans une église réformée, et lui, il n'était même pas chrétien, mais il aimait bien jouer de l'orgue. Et chaque fois qu'il y avait un prédicateur qui prêchait avec force ou onction, lui jouait une musique catastrophique. Et les chrétiens étaient mal à l'aise, ils sentaient la musique qui les mettait mal à l'aise. Pourtant, c'était juste la musique, c'est même pas des chants, c'est des morceaux intermèdes, comme ça, à l'entrée, à la fin, et tout le monde était mal à l'aise. Donc, parce qu'on l'a engagé sur ses qualifications, sur son diplôme, et pas sur son cœur, sur son esprit pour l'adoration. Et ça, c'est à cause de plein de choses qui ont évolué, qui ont fait que. Au début, ce n'était pas comme ça, mais finalement, on arrive à ça. L'adoration, c'est communautaire. Ça veut dire on doit arriver à adorer avec ses frères et ses sœurs. Celui qui dit, moi, j'adore Dieu tout seul dans la forêt, et c'est bien, parce que c'est aussi le temple de Dieu, la forêt. Mais viens aussi adorer avec moi. Avec ma sœur, avec mon frère, avec ma femme, avec mes amis, avec mes enfants. On se rassemble pour adorer. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et toujours l'Apocalypse, vous lisez, toutes les fois c'est une grande foule. Une foule innombrable. Une foule qu'on ne pouvait compter. Des bruits de grandes... Et les gens disent, oh, je ne supporte pas la foule. C'est mieux de te préparer parce qu'au ciel, il y aura la foule. Hein? Tu ne seras pas tout seul dans ta petite cabine. Hein? Tu seras mélangé avec la foule. Donc Dieu veut te guérir de ça et te mettre dans une relation communautaire. Tandis que l'adorathène, c'est individualiste, égoïste. Oh, j'aime pas cette musique, j'aime pas ce chant, j'aime pas quand il y a trop de monde, ça me dérange que quelqu'un me touche, et mon voisin, il lève toujours les bras, il sent pas très bon, j'aime pas ça. Hein? C'est vrai que c'est plus facile d'être tranquille chez soi, hein? Mais en même temps, Dieu a prévu qu'on travaille ensemble et qu'on soit communautairement ensemble. L'égoïsme et l'individualisme ne sont pas les principaux caractères que Dieu veut qu'on développe. Ensuite, je continue, toujours adoration, adoratène. L'adoration, c'est gratuit. C'est donné à Dieu, c'est une offrande. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Dieu ne veut pas acheter ta louange. Pourtant, les hommes, ils essayent d'acheter, rapporter, vendre. Il y a des enjeux financiers, même dans l'adoration. Avec la musique, avec les CD, avec les concerts. Oui, moi, je veux venir chanter dans ton église. Ah oui, viens dans notre église, ça, tu chantes bien, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Ah, mais il faut que tu me donnes 1000 euros pour que je vienne chanter. Ah bon? Ça coûte 1000 euros d'adorer Dieu? Ok. Bien sûr qu'il faut être juste et que Dieu nous demande d'honorer ceux qui le servent, c'est clair. Dieu nous demande d'être juste financièrement, d'avoir la sagesse, l'intelligence. Mais tu ne peux pas exiger et vendre ton don et ton ministère. Hein? C'est comme si un pasteur dit « Je viens prêcher seulement si tu me donnes 500 francs. » Malheureusement, ça existe, j'en connais. Mais même s'il est le plus célèbre du monde, qu'il est très occupé, je ne crois pas que ce soit biblique d'être exigeant à ce point-là. Que Dieu donne, parce que Dieu dit que tout ouvrier mérite son salaire. Dieu bénit, celui qui donne, qui sème, il va recevoir. Mais ce n'est pas celui qui donne qui doit déjà définir combien il va recevoir. Ça, c'est mon principe, que ce soit pour un ministère, aussi pour la louange. Question ? C'est une grande polémique, c'est une grande discussion. Hein. Il y a plusieurs niveaux, exactement. Il faut être sage. Hein. On ne peut pas tout résumer. Là, je vous donne la pensée générale. Mais c'est clair que je crois, premièrement, qu'un ministère ne doit pas se vendre. Ça, c'est ma pensée. Et c'est comme ça que je fonctionne. Ça fait 20 ans que je travaille à Jeunesse en Mission, que je vis par la foi. Je n'ai aucun salaire de Jeunesse en Mission. Et quand je vais chanter dans un endroit, je ne demande pas d'argent. Certaines personnes me font des dons et des offrandes, et je laisse à Dieu et aux hommes la liberté de le faire. Bien sûr qu'il y a des frais. Si je dois louer une sonorisation, amener des micros, déplacer, je demande que les frais soient remboursés. Ça me semble normal. Mais à partir de là, je laisse la liberté. Je sais que d'autres personnes ont une autre conviction. Je la respecte si c'est leur manière de faire. Je pense qu'il faut avoir un équilibre. Je crois que c'est dans la relation, dans la compréhension de la personne qu'on peut comprendre. Parce que cet enseignement peut aussi aller trop loin. C'est-à-dire que tu dis, ok, j'ai ma voiture a un problème, je vais aller chez le garagiste, il est chrétien, donc il va me le faire gratuitement. Et comment lui va manger, comment lui va vivre? Tu sais bien que tu dois le payer, lui. Donc si on veut qu'on ait aussi des musiciens chrétiens de qualité, il faut aussi bien que quelqu'un les paye. Donc si tout le monde profite d'eux et leur donne jamais à manger et jamais d'argent, ils vont arrêter leur travail. Et on n'aura jamais de bons musiciens dans l'église. Parce que dans le monde, tu vas jouer dans un bar, et bien on va te donner 100 euros, 200 euros à manger, un lit, un hôtel, etc. Donc, il faut qu'on soit sage. Hein? À part ça, là, l'autre question des droits d'auteur, c'est aussi une question assez délicate, mais je crois que c'est juste aussi de respecter celui qui a reçu quelque chose de Dieu et de le bénir. Comme un prédicateur nous bénit par sa prédication, on va le bénir, on va lui donner une offrande. Quelqu'un nous bénit par un chant, on va lui donner quelque chose parce que ce chant nous bénit et ce chant est utile. Donc, la copie, pour moi, je ne suis pas pour la copie, par contre. Je crois que là, il y a des lois officielles de l'État qui nous demandent de ne pas copier. Donc, je respecte ça. Personnellement, je ne fais aucune copie, même des artistes que j'aime. J'écoute ou j'achète ce que je désire. Parce que là, je crois que c'est vraiment un métier. C'est comme réparer ta voiture ou aller acheter du pain à la boulangerie. Même si elle est chrétienne, tu vas payer ton pain. Mais moi, si je peux choisir, je vais choisir la boulangerie chrétienne parce que je soutiens un chrétien. La même chose, la musique, je choisis un CD chrétien, je sais que je bénis un chrétien plutôt qu'un non-chrétien. Même s'il y en a plein qui font de la bonne musique, je dis, je vais choisir les gens que je veux bénir. Donc, en achetant, je fais mon choix. À partir de là, je crois qu'on peut toujours trouver un moyen de prêter un CD à quelqu'un. Ça, tu peux le faire. Même s'il n'est pas chrétien, dis, je te prête mon CD, tu peux l'écouter et peut-être qu'il va se convertir sans qu'il fasse une copie. Donc, le problème de la copie, c'est un problème qui est des fois un petit peu tordu. Hein. Mais je crois qu'en tout cas, ce que je veux dire par ce point-là, qui est très important, c'est que notre choix, notre engagement ne doit pas être basé sur l'argent. Voilà. Tu m'invites, si tu me payes, je viens. Non, je vais si Dieu me dit d'aller. Si on m'invite et que moi, Dieu me dit, vas-y, j'y vais. Et après, on s'organise et j'espère que lui va être correct et moi, je vais être correct. Et puis tu apprends, il y a des gens qui sont corrects, il y a des gens qui ne sont pas corrects aussi, même dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui profitent et qui abusent, et c'est eux qui seront jugés de ça. Moi, mon cœur, je veux le garder pur, je veux le garder juste par rapport à ça. Donc ce que je veux dire, c'est que l'argent peut être un piège et peut parfois nous éloigner de la bonne ligne, de la bonne piste. Mais il faut bien que les gens soient aussi payés, puissent vivre et être soutenus dans ce qu'ils font. Donc on ne peut pas résoudre ça. Je ne suis pas contre, je pense qu'il peut y avoir des concerts chrétiens payants, ça donne quand même une certaine référence, ça peut même toucher des gens du monde, parce que les gens du monde, ils vont dire, « Oh, c'est gratuit, c'est pas bien, je viens pas. » En tout cas, en Europe, c'est comme ça. Hein. Donc, si c'est payant, ils disent, ça va être sérieux. Et vu que c'est payant, à cause de l'argent, on va mettre une belle salle, des beaux fauteuils, des belles lumières, une belle musique, mais là-dedans, il y a l'évangile. Et l'évangélisation, et des gens vont pouvoir se convertir. Donc, je crois que c'est possible. Mais après, comment on gère l'argent, le résultat du concert, s'il y a des gens qui mettent l'argent dans leur poche, qui profitent de s'enrichir, ça, c'est pas juste. Mais si c'est organisé avec sagesse, à la lumière de l'Église, du peuple de Dieu, je pense que c'est possible. Et puis très bien pour des concerts chrétiens aussi gratuits, parce que c'est un événement de louange qui rassemble les églises, il n'y a pas besoin de faire payant. Et voilà, je crois qu'il faut trouver l'équilibre, la sagesse, l'intelligence et le respect. Mais surtout, la gestion de l'argent est primordiale. Il ne faut pas que l'argent vienne avant l'adoration. C'est surtout ça. L'argent, c'est un moyen, ce n'est pas un Dieu. Il faut que ça nous serve, mais pas qu'on serve l'argent. Donc je le dis vraiment pour tous les groupes de louange. Soyez sages dans votre manière d'appréhender cette question-là, quoi. Hein? Ok. Dans l'adoration, il y a la joie, la fête, la liberté et la réalité. C'est beaucoup de choses, hein, mais c'est vrai. Moi, je sais que quand je suis dans une réunion de louange où il y a vraiment un bon état d'esprit, où c'est vraiment l'adoration, on fait la fête pour Dieu, vraiment. Et c'est juste. Et c'est bien parce qu'il y a des églises qui sont tellement tristes que c'est mortel, quoi. T'as pas envie d'y aller, hein. Et c'est pas vraiment de l'adoration, c'est de la religion, c'est du système. On y chante comme ça, par habitude. Et dans l'adoratène, bah, justement, c'est ça qui se manifeste. La mort, la tristesse, finalement, l'irréalité, la religiosité. La religiosité, c'est faire quelque chose qui ne te correspond pas vraiment. Tu dis, ah, ok, là, il y a 2 heures au culte, il faut que je sois tranquille, il faut pas que je fasse de bruit, il faut pas que je chante trop fort. Mais dans ton cœur, c'est pas ça que t'as envie. Mais à cause du système, tu te mets dans le système et tu sors de qui tu es vraiment. Hein? L'irréalité, c'est être différent à l'église que tu es dans la vie. Tu vois, les chrétiens, ils sont là au match de foot, ils disent, allez, ouais, gagnez, on va. Ils crient, ils sautent, ils dansent, ils sont à l'église, ils sont éteints, ils s'effacent. Ils chantent plus, ils crient plus, ils bougent plus. Pourtant, c'est la même personne. Quel est le problème? C'est la religiosité qui t'enferme dans une boîte et qui dit tu n'as pas le droit de bouger à l'église, tu n'as pas le droit de chanter à l'église, tu n'as pas le droit de crier à l'église, tu n'as pas le droit de faire du bruit à l'église. Alors bien sûr, c'est un problème plus global qu'il faut gérer aussi avec la dénomination, avec les leaders et tout ça. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive à être la même chose partout dans notre vie. Il n'y a pas besoin de changer de voix parce que tu es dans l'adoration. Quand tu pries ou quand tu chantes, hein? Je te dis bonjour mon frère et quand je parle à Dieu, je dis « Oh Dieu, comment vas-tu? Je t'adore. » Et puis à ton frère, tu vas lui parler comme ça, hein? « Ça va ce matin, mon frère ?» Non, hein? Ça c'est la religiosité, c'est un système que les hommes ont mis en place. Ils pensent qu'ils sont plus élevés parce qu'ils changent de voix. Dieu t'a donné ta voix, prends ta voix pour louer Dieu ou pour parler aux hommes ou parler à ta femme ou à tes enfants. Sois le même. Dans l'adoration, il y a le changement, ça bouge et ça évolue. Je vous en ai parlé, il y a la vie. Quand il y a la vie, ça bouge, ça avance. Quand il n'y a pas de vie, il y a des structures primordiales et pas de changement possible. On a toujours fait comme ça. Vous avez déjà entendu ça? Toutes les églises disent ça une fois. Ah, mais pourquoi changer? On a toujours fait comme ça. La louange chez nous, c'était comme ça. J'ai dit, ok, c'était bien, mais maintenant c'est différent. Mais mon grand-père qui était pasteur, il faisait déjà comme ça, tu sais. Et Dieu l'a béni. J'ai dit, amen. C'était bien qu'il l'a béni. Autrement, tu ne serais pas là. Hein? Et Dieu a béni cette œuvre. Mais maintenant, c'est différent. Et maintenant, on change. Maintenant, on évolue, on avance. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas de structure. Je suis quelqu'un d'organisé et j'aime les structures et je crois que c'est important. Mais à un moment donné, la structure ne doit pas passer avant l'adoration. Et c'est là le danger. C'est quand la structure arrête l'adoration. C'est fini. Maintenant, on arrête. Ah bon? Peut-être qu'il faut avoir des horaires, ça c'est sûr, pour nos cultes, pour nos réunions. Mais en même temps, il faut des fois être prêt à déplacer ces structures-là, ou à les bouger, ou à oser faire quelque chose de nouveau. Hein? Simplement, est-ce que vous avez déjà essayé de changer l'heure du culte? Ou de faire une réunion à une autre heure, ou à un autre horaire? Vous savez, louer Dieu le samedi soir, ce n'est pas la même chose que dimanche matin. C'est bizarre, hein, mais ce n'est pas la même chose. Les gens ne sont pas la même chose le samedi soir que le dimanche matin. Et le dimanche après-midi, et même dans les tabernacles, quand on fait la louange au milieu de la nuit, à 4 heures du matin, les gens ne louent pas la même chose qu'à 4 heures de l'après-midi. Parce que notre tempérament, notre caractère, notre réaction, notre fatigue, notre tête n'est pas la même. De la même chose qu'on n'est pas la même chose si on lit la Bible le matin ou le soir. On lit différemment, vous êtes d'accord, hein? Et il y a plein de choses qu'on est différents selon les heures de la journée. Donc c'est bien d'apprendre à louer Dieu à toutes les heures. Et je trouve qu'on expérimente d'autres choses. Et que c'est bien de tester ça. Donc, il faut que les structures nous permettent. Pas que les structures nous enferment, nous disent, on ne peut pas. Dans l'adoration, tu es appelé et choisi par Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Et tandis que dans l'adoratène, c'est appelé et choisi par les hommes. C'est-à-dire, oh, tu es beau, tu chantes bien, viens chanter. Et puis, on prend quelqu'un qui n'est pas forcément à sa place. Et il y a un autre frère qui est dans l'église que Dieu appelle. C'est la même chose qui s'est passée avec David. Hein. Samuel vient pour oindre et il regarde tous les frères. Ouais, ils sont costauds, ils sont forts, ils sont vaillants, c'est des bons soldats. Et Dieu les désapprouvait. Ça ne veut pas dire qu'il désapprouvait leur personne, leur qualité, non. Mais pour ce rôle que Dieu demandait, ce n'était pas la bonne personne. Et Dieu a dit, David. Donc, il y a des fois, on doit choisir des gens qui ne sont pas forcément ceux que les hommes auraient choisis. Mais il faut reconnaître que Dieu choisit une autre personne et accepter cela. J'aime bien aussi ce point 9, la Bible dirige et inspire. Dans l'adoration, je vois et j'entends la Bible, que ce soit dans les chants, dans les prières ou dans les lectures. Mais dans l'adoratène, c'est la musique et la manipulation qui dirigent. C'est-à-dire, je vois des fois des temps de louange où il n'y a même pas un verset biblique. Il n'y a même pas un chant biblique. C'est des belles mélodies, c'est des belles paroles. Tout va bien, je vais bien, tu es bon, on est content, il fait beau, je ne sais pas, hein, je raconte. Mais... Et puis ensuite, la manipulation où les gens nous disent tout ce qu'on doit faire, comment il faut le faire. Alors que la Bible te donne la liberté. Elle t'invite, elle te dirige, mais ensuite, elle te laisse de l'espace. Donc dans la manipulation, tu n'as plus le choix, tu es obligé de faire ce qu'on te dit. Hein? Et j'ai encore quelques points sur le même sujet, toujours. Adoration ou adoratène. Dans l'adoration, il y a l'amour, le pardon et la compassion. C'est quelque chose qui sort, qui se dégage de l'adoration. Quand tu es dans l'adoration, tu sens l'amour de Dieu, l'amour les uns pour les autres, le pardon de Dieu. Tu accordes le pardon, la compassion de Dieu, et toi, tu as de la compassion. Dans l'adoratène, il y a la comparaison, l'exigence, la pression, la copie. C'est beaucoup de choses, hein. La comparaison, c'est « Ah ouais, ils chantent bien, mais l'autre groupe, ils chantent mieux. Ah, ce guitariste, il est bien, mais je connais un autre qui est meilleur. Et pourquoi ils n'ont pas fait ce chant que j'ai entendu sur le dernier CD l'autre jour, là? J'aimerais tellement qu'ils fassent comme eux. Tu sais, j'ai vu un DVD, il faut faire comme ça. » Et on compare, on compare, on compare, on compare. La Bible dit que ceux qui se comparent sont stupides. Dans 1 Corinthiens 10, hein. Moi, je ne crois pas qu'on est appelé à la comparaison. Et surtout, la comparaison, elle est quasiment toujours négative. On se compare toujours pour dire, c'est moins bien ce que tu fais. Ou tu chantes moins bien, etc. Et ça amène une pression terrible. Et la pression est là, par, ça soit par le public, ça soit par le pasteur, les anciens ou les autres musiciens qui, entre eux, se mettent la pression. Hein? Je suis le meilleur. Je suis meilleur que toi. Et si tu veux être bien, si tu veux être dans mon groupe de louanges, tu dois être mieux que lui. et on fait une comparaison à un mauvais niveau. Hein. Je crois à l'excellence. Je crois que Dieu nous a donné des dons excellents. Tout don excellent vient de Dieu. Je crois que Dieu a donné des belles voix. Je crois que Dieu a donné des beaux instruments. Mais ce n'est pas pour écraser les autres. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour critiquer les autres. C'est pour donner la gloire à Dieu. Et ça se sent très bien. Quelqu'un qui chante bien et qui dit « Merci Seigneur », ça nous touche parce qu'il a une belle voix et on sent sa louange, elle est vers Dieu. Mais quelqu'un qui chante bien et qui dit, il ne dit pas, mais on le sent, « Écoutez comme je chante, regardez comme je chante, regardez comme je suis beau », ça te fatigue, franchement. Même s'il chante très bien, tu écoutes peut-être son CD, peut-être ça touche tes émotions, mais pas ton esprit. Et les émotions, elles changent vite. Et tout d'un coup, un que tu trouvais merveilleux, au bout de 2 ans, tu l'as oublié, tu jettes le CD, et c'est un autre. Et ça change, parce que c'est juste les émotions. Puis tes émotions, à ce moment-là, étaient comme ça. Hein? Mais dans l'adoration, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas nos émotions qui nous guident. Il ne s'agit pas de copier un autre groupe. Et c'est un grand piège. On veut faire comme ce groupe. Moi, je vois même des gens, ils ont été bénis dans un temps de louange, ils n'ont pas réalisé que c'est l'Esprit qui les a touchés. Ils demandent, ils viennent chercher ma liste de chants. Ils me disent, ah, c'était bien les chants que tu as fait, donne-moi ta liste, je vais faire la même chose à l'église. Je dis, mais fais pas ça, surtout pas. Même moi, je ne fais jamais 2 fois la même liste. Même moi, je ne me copie pas moi-même. Pourtant, Dieu a béni peut-être une réunion. Je dis, ah, ça a bien marché, je vais faire la même chose. Ça ne marchera pas la deuxième fois parce que Dieu ne va pas mettre son sceau et sa bénédiction parce qu'il sait que ce n'est pas de la manne fraîche. C'est une manne de hier. Et la manne de hier, elle pourrit. Il faut la manne d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Quel chant? Quelle prière? Quelle direction? Et même si tu as des groupes de louanges bénis, puis ils ont une grande église de 10 000 personnes, tu ne peux pas copier ça dans ton église de 50 personnes. Ça ne va pas marcher. Parce que cette église de 10 000 personnes, ça fait peut-être 20 ans qu'ils jeûnent et qu'ils prient et qu'ils travaillent et qu'ils sont arrivés là. Et tu ne peux pas arriver là juste en copiant les mêmes chants. Ça ne suffit pas. Bien sûr qu'il faut se laisser inspirer. Mais garder ça comme à l'esprit amour, pardon, compassion, à la place de copie, exigence, pression. L'adoration nous conduit devant Dieu à l'écoute de son esprit. C'est évident. Quand tu es dans l'adoration, tout à coup, tu as envie d'écouter Dieu et tu sens que Dieu parle, n'est-ce pas? Tu sens que sa présence est là et puis du coup, tu es très attentif à ce qu'il veut. Et tout à coup, il y a une prophétie, il y a un texte biblique et tu sais, ah, oh, c'est Dieu ça. Alors qu'autrement, tu es conduit devant les hommes et leurs messages. C'est-à-dire, on va chanter en attendant d'entendre le magnifique prédicateur qui va nous enseigner. Hein? Et même, on dit ça. En attendant. Moi, je ne chante pas en attendant. Jamais. J'attends quelque chose, oui. J'attends Dieu. Mais je ne chante pas en attendant un autre homme. Je ne chante pas pour boucher les trous. Je ne chante pas pour occuper les gens, pour qu'ils se tiennent tranquilles. Hein? Je chante parce que je veux adorer. Et parce que Dieu est là, et Dieu me parle déjà dans l'adoration. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'adoration prépare ton cœur à la prédication et que ça va ensemble. Et que parfois même, il a déjà donné une parole qui est confirmée après. Ou c'est un autre élément, mais Dieu le fait. Soyez attentifs, soyez à l'écoute. L'adoration, c'est centré sur Jésus, c'est clair. L'adoratène, c'est centré sur les besoins des hommes. C'est-à-dire que tu peux prendre des chants. Et ça, c'est pour ceux qui conduisent la louange. Tu peux prendre des chants qui se sentent sur Jésus avec une réalité des besoins des hommes, c'est clair. Parce que la réalité, c'est ça, on a des besoins. Mais tu peux aussi tout le temps centrer sur les besoins des hommes. Du style, la vie est dure, mais Jésus est là. Je vais mal, Jésus vient m'aider. Jésus, je suis dans la douleur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, viens à mon secours. Je lève les yeux. Je regarde à toi, viens m'aider, pardonne-moi, purifie-moi, touche-moi, remplis-moi. Comme je l'ai dit, finalement, le Dieu, c'est moi. Bien que ces chants soient importants, et il y a des moments clés pour les chanter, et on a tous crié une fois à Dieu, j'ai besoin de toi, c'est juste. Mais si toute la louange, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, puis Dieu dit, mais je suis là, c'est bon, j'ai compris. Tu ne vas pas dire ça pendant 1 heure, hein? Si tu vas chez le garagiste, tu dis, oh, j'ai un problème avec ma voiture, j'ai un problème avec ma voiture, fais quelque chose pour ma voiture, soigne ma voiture, répare ma voiture, fais quelque chose. Ben, c'est bon, j'ai compris, je m'en occupe. Est-ce qu'on peut boire un pot et discuter d'autre chose? Hein? Tu vois, si tu parles tout le temps de ton problème, tu n'avances pas. Et dans la louange, si on fait que ça, on reste très humain, on reste dans notre souffrance. À la limite, on glorifie notre souffrance et notre problème. Ok, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen, c'est un magnifique chant. Mais maintenant, tu sors de la rivière, tu nages, tu vas dans le bateau, tu avances. Une fois que tu es plongé, c'est bon, tu as pris ta douche, tu avances. Tu ne restes pas plongé parce que tu vas te noyer. Hein? Tu vas te noyer si tu restes tout le temps là-dedans. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un équilibre à trouver dans les champs, dans la direction qui sont importantes. Oui?
Par rapport à David, actuellement, c'est moins le cas, mais beaucoup dans l'histoire de l'Église, ils chantaient les psaumes, tout ça. Et quand même, les psaumes de David, si on lit, il y en a quand même beaucoup qui font référence à la souffrance, aux difficultés.
Tout à fait.
Et beaucoup qui sont personnels. Enfin, moi, je me dis, on me dit, voilà, il y a des personnes qui disent, voilà, il dit « je », donc quand on prie, il ne faut pas dire « nous », il faut dire « je », parce que David est là. Mais pourtant, ben, aujourd'hui, quand on chante les psaumes, c'est ensemble. Et David, quand il composait ses psaumes, c'était quand il était seul.
C'est une très bonne question. Et moi, je me suis aussi posé cette question. Donc, j'ai étudié les psaumes et j'ai fait une étude profonde pour savoir qu'est-ce qui était. Et en réalité, si tu regardes les psaumes, il y a la moitié de psaumes en jeu et la moitié en nous. 50-50. Partagé parfaitement. Donc, on doit être nous-mêmes devant Dieu, seul avec Dieu, c'est juste. Ça veut dire ça, c'est des temps de prière personnels. Mais il y a aussi une autre moitié où tu es avec les autres, les frères, les sœurs, à l'église, à l'assemblée. C'est nous. Donc, il faut les deux. Il y a des directeurs de louanges, ils prennent que des chants en jeu. Ça me pose un petit problème. Je me dis, mais ils oublient qu'il y a d'autres frères et sœurs. Ils ne sont pas le centre du monde. Mais c'est vrai que si tu chantes que des nous, tu ne te sens pas concerné. Donc, c'est aussi important de chanter des jeux. Et puis aussi, au niveau des plaintes, il y a un certain nombre de chants qui sont des plaintes, vraiment. Mais il n'y a qu'un seul psaume qui est entièrement une plainte sur 150. Et tous les autres, il y a des plaintes, il y a des cris, il y a de la détresse, mais il y a toujours de la louange avec. Et c'est ça la grande différence pour nous. Et ça, des fois, c'est un message entier que je donne sur le thème. Ça me semble très important de réaliser. Tu écoutes, tu lis David, par exemple, dans le psaume. Moi, j'aime bien le psaume 61. Il crie à Dieu. « Oh Dieu, écoute ma plainte. Sois attentif à ma prière du bout du monde quand je n'en peux plus. Je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. » Ça, c'est le cri de désespoir. Hein? « Je suis au bout du monde. Je suis très loin de toi. J'en peux plus. Aide-moi. » Et en même temps, il ne reste pas là. Nous, on reste là. On est à terre, on n'en peut plus et on se plaint. David, dans le même psaume, dit tout de suite, « Tu as été pour moi un protecteur. Tu as été pour moi une tour fortifiée face à l'ennemi. J'aimerais vivre toujours dans ta maison et trouver un abri sous tes ailes. » Waouh, quelle louange! L'instant d'après, dans le même psaume, il se souvient de ce que Dieu a fait, il décrit son état, il se souvient de ce que Dieu a fait, et ça le conduit à la louange, à la proclamation, même ça va très loin. « J'aimerais vivre toujours dans ta maison, trouver un abri. » C'est une demande, puis en même temps, c'est une proclamation. Donc, et tu continues le psaume, verset 9. « Alors, je te célébrerai sans cesse par ma musique et par mon chant. J'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. » C'est le même David dans le même psaume qui disait « Écoute ma plainte, j'en peux plus. » Donc, la différence avec aujourd'hui, c'est que nous, on se plaint et on reste dans notre plainte. Je crois que la plainte est juste, elle est biblique, mais ça doit nous amener aussi à l'équilibre. Et l'équilibre, c'est dire « J'en suis là, mais Dieu est là. » C'est ça l'adoration. On ne refuse pas la réalité, on est dans une réalité, mais la réalité, c'est aussi que Dieu est là, que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu est grand. C'est pour ça que la louange est primordiale pour nos vies, pour la vie de l'Église. On a besoin de la mettre dans nos plaintes, dans nos difficultés. Donc, moi, je prêche pour une louange qui a les deux. Hein? On parle de nous, on a dans la réalité, mais en même temps, on proclame vraiment qui est Dieu. Je termine, parce qu'on va faire la pause juste là. Le résultat de tout cela, une adoration juste, Dieu est souverain, et nous nous prosternons pour le servir. Finalement, c'est ça la conclusion. À un moment donné, ouais, Dieu, j'ai compris, t'es le patron. J'ai essayé d'être le patron, ça n'a pas marché. Parce que même en tant que chrétien, on reprend le rôle. Hein? On reprend le rôle d'indépendance, d'autonomie. Mais quand tu comprends que Dieu est souverain, tu te prosternes, tu dis, oui, c'est vrai, Seigneur, je reviens à toi. Par contre, dans l'adoratène ou l'humanisme, on pourrait dire aussi ça comme ça, adoratène, on pourrait le décrire par humanisme, hein. L'homme reste le maître et on sert ainsi que les structures. On sert l'homme et on sert les structures. Il y a des gens, ils pensent qu'ils servent Dieu, puis en fait, ils servent le bâtiment, ils servent l'église, ils servent la structure. C'est un peu des concierges qui nettoient, qui rangent, qui font des bonnes choses, mais en fait, ils se cachent là derrière ce rôle. L'humanisme devient Dieu. Et c'est un défi pour nous tous. Parce que c'est très subtil. L'humanisme, on dit, mais c'est bien, je fais du bien aux hommes. Les hommes sont contents, donc je fais une bonne œuvre. Hein? Mais quand l'humanisme prend la place de Dieu, ce n'est pas bon du tout. Et l'humanisme qui devient une religion, c'est un piège. Et c'est cet humanisme-là qui nous a vraiment éloignés de Dieu en Europe. Hein? Parce qu'on est parti de l'évangile en disant, voilà, Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, donc il faut aimer, pardonner. Puis on a pris ça tellement fort qu'on a mis ça en priorité. La priorité, c'est d'être tolérant, d'accepter tout le monde, d'aimer tout le monde, de faire juste ça, et puis on oublie Dieu, on enlève Dieu. Donc ça ne marche pas sans Dieu. Ça marche avec Dieu, mais sans Dieu, ça ne marche pas. Donc je vous encourage à être des adorateurs qui adoraient Dieu et qui n'êtes pas des humanistes qui adoraient Athènes ou la philosophie de l'homme qui cherche à prendre la place de Dieu finalement. Amen. David y prie dans le psaume... c'est David. David prie dans psaume 8, « Qu'est-ce que de l'homme éternel pour que tu prennes garde à lui ? Quand je regarde le ciel, la lune et les étoiles que tu créas. » À l'époque, la Bible, ils n'avaient pas tellement de télescopes, d'appareils ou de fusées. Hein. Donc, ils comptaient les étoiles qu'ils pouvaient voir depuis la Terre. Donc, depuis la Terre, on peut voir, si on fait le tour de la Terre, avec nos yeux, 6000 étoiles. On peut compter 6000 étoiles, c'est déjà pas mal. Hein. Mais avec les télescopes, on a développé ça, la science, etc. On a trouvé, vous pensez combien d'étoiles ? Quelqu'un dit un chiffre. Combien d'étoiles ? 1 million ? 10 000 ? 10 millions ? Qui dit mieux ? Qui dit moins ? 10 milliards. Il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Mais maintenant, la science a découvert qu'il n'y avait pas seulement une galaxie. Vous savez ? L'univers est en expansion. On découvre qu'au-delà de notre galaxie, il y a d'autres galaxies. On a vu une autre, puis après une autre, puis après une autre. Ils ont découvert qu'il y avait beaucoup d'autres galaxies. Vous savez combien il y a de galaxies ? Des galaxies qui ont chacune 200 milliards d'étoiles ? 200 millions ? Qui dit mieux ? Qui dit moins ? Actuellement, d'après les scientifiques, on est à 50 milliards de galaxies. 50 milliards de galaxies qui ont chacune 200 milliards d'étoiles. Dieu dit qu'on peut donner des dons aux étoiles. Si vous commencez maintenant, vous n'allez pas finir avant la fin de votre vie. Hein ? Ça veut dire que Dieu a fait pour chaque homme de cette terre à peu près 8 galaxies. Vous avez chacun le droit de prendre 8 galaxies pour vous avec 200 milliards d'étoiles. Puis vous pouvez donner des noms à toutes ces étoiles. Ça donne un tout petit peu de la grandeur de Dieu. Hein? C'est un tout petit peu de la majesté, de la puissance. C'est un peu un chiffre qui est... C'est comme quand il y a plein de zéros, là. On ne sait plus où ça s'arrête. C'est l'infini, quoi. C'est l'éternité. Et ce monde, il est là. Et les scientifiques, j'espère qu'ils vont se convertir quand ils vont commencer à calculer. Hein, parce que là, franchement, ça nous dépasse. Quoi, on ne peut pas maîtriser. C'est tellement plus grand que... Et chaque fois que nos appareils sont plus sophistiqués, on voit que ça va encore plus loin. Donc, Dieu est grand. Dieu est grand. Ça, je pense qu'on peut le dire. Hein. Donc, la guerre des autels. On a parlé beaucoup du tabernacle, d'un tabernacle de prière, d'adoration. La question que je pose, pourquoi on bâtit ou tu bâtis un autel d'adoration? Je pose la question à tous ceux qui se sentiraient interpellés après ce que je vous ai dit sur la louange. Je veux construire cela. Il faut vraiment que les choses soient bien au clair dans nos cœurs. Si tu construis ça pour ta propre vie ou ton succès, pour ton ministère, comme je disais, certains pasteurs disent « mon église hein? », mais c'est l'église à qui déjà hein? C'est Jésus qui pose la question une fois. Il y a un pasteur qui disait « Seigneur, viens toucher mon église », puis Jésus lui disait « c'est l'église à qui ?» Hein? C'est Jésus qui est le père de l'église, le maître de l'église, le fiancé de l'église, pour ta dénomination. Si on part sur des mauvaises motivations, on ne va pas y arriver. Et c'est important que nos motivations soient claires. Donc si on bâtit un autel, bien sûr, c'est pour Jésus. Donc c'est évident, mais en même temps, je crois que c'est bien de le préciser, de l'écrire comme ça, afin qu'on le saisisse. Si tu le bâtis pour autre chose, ça va s'écrouler, parce que les choses que les hommes construisent, ça ne tient pas comme ce que Dieu construit. Il va avoir peut-être un certain succès, une certaine réussite, mais il faut vraiment que ça soit très très clair. Où on va, pourquoi on le fait. Alors dans cet autel, cette guerre des autels, c'est une guerre de position. Vous savez, dans toute guerre, dans tout combat, la position est très importante. Où est-ce que tu te trouves physiquement et spirituellement? Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te positionnes? Quelle est ta place? Où est-ce que tu te situes et où est-ce que l'ennemi se positionne? Et où est-ce qu'il est situé? Et où est Dieu dans tout ça? Et je crois que la position, elle est primordiale. Et la Bible définit des choses intéressantes à ce sujet. Donc, la guerre de position. Il faut déjà comprendre la position de Dieu. Et la Bible dit bien, l'Éternel est le plus haut. Vous le saviez, j'espère. Hein? Alors, on va voir quelques textes qui nous parlent de ça. Psaume 97, verset 9. Car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Donc, vous voyez les dieux, les puissances. Ben, Dieu, il est encore au-dessus. Souverainement élevé. Psaume 91, verset 1. Vous connaissez ce verset aussi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, si on est sous l'abri du Très-Haut, c'est bien. On est au bon endroit, nous. Et Dieu est à bonne place. Psaume 47, verset 2 et 3. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Dieu est grand, c'est un grand roi. Et pourtant, nous, on est à peu près entre deux, puisque dessous nous, il y a encore des peuples et des nations même. Vous voyez, notre position en Christ, elle est élevée. Hein? On peut être en hauteur avec lui. Mais dans ces textes, vous avez remarqué peut-être quelque chose, je vous ai donné comme titre « L'Éternel est le plus haut ». Et puis dans ces textes, on a un autre terme. Je n'ai pas trouvé le mot le plus haut dans la Bible. Je l'ai cherché pourtant, en tout cas dans la Bible en français. Mais si on regarde vraiment clairement le texte original, on va trouver qu'il y a une mauvaise traduction. Et vous savez que même dans la Bible, il y a parfois des petits bugs, des petites erreurs, qui peuvent avoir plus ou moins de conséquences. En l'occurrence, Satan a réussi à convaincre le traducteur Louis II que Dieu était haut, mais pas le plus haut. Donc il a traduit le très haut. Donc le mot, c'est Elion, traduit en français par très haut, mais ça ne veut pas dire ça. Et en anglais, en allemand, ou dans beaucoup d'autres langues, ce n'est pas marqué très haut, c'est marqué le plus haut, the most high, the höchste. Hein? Pour ceux qui, dans vos autres langues, je ne sais pas comment c'est, mais et littéralement, ça veut dire élevé, supérieur, supériorité, haut placé. Donc c'est quand même une petite différence qui est de taille. La hauteur donne la position hiérarchique. Si quelqu'un est très haut, par exemple, c'est un ministre très élevé, mais il reste en dessous du plus haut. Vous êtes d'accord? Si on parle d'alpinisme, si on parle de montagne, il dit ça c'est une très haute montagne, ça c'est une haute montagne, ça c'est très haut, mais il y en a une qui est plus haute. L'Everest, c'est la plus haute montagne. Donc si tu vas sur la plus haute, tu seras meilleur que ceux qui sont même très hauts. Donc le fait de dire que Dieu est très haut, c'est bien, mais ce n'est pas la vérité complète. Hein? Parce que Satan, justement, il n'aime pas que Dieu soit le plus haut. Il reconnaît que Dieu est haut, mais il ne veut pas qu'il soit le plus haut. Satan conteste la position de Dieu. Toute sa vie, toute son œuvre à Satan, c'est de dénigrer, de contester, de critiquer la position de Dieu, ou des chrétiens d'ailleurs. C'est pour ça qu'il nous tire plutôt vers le bas que vers le haut en général. Hein? Le découragement, la dépression, tout ça, ça te tire en bas. Et l'adversaire, vous lisez ce texte dans 2 Thessaloniciens 2:4, hein, je l'avais déjà cité dans l'étude du Nouveau Testament, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Satan est fort. Et surtout par la conviction dont il arrive à convaincre les gens, il essaye de prendre la place de Dieu et de convaincre les gens qu'il est Dieu. Ou de mettre un de ses substituts, un de ses amis à lui, ou une puissance, ou une domination qui va dire qu'il est Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tant de religions sur la terre, qu'il y a tant de faux dieux, tant d'idolâtrie. Tous ces idoles disent qu'ils sont Dieu. Déjà du temps d'Israël, les Baals et tous les autres dieux se prétendaient Dieu. Hein? Quelquefois, il y a eu des confrontations intéressantes. Quand ils ont mis l'autel, le tabernacle dans le temple du dieu Dagon, et puis que l'autre statue est tombée. Hein? Puis le lendemain, ils l'ont relevé, puis ils ont remis, puis ils sont revenus, elle était de nouveau tombée. C'était assez clair. Hein? Il y en a un qui était plus fort que l'autre. Et ils l'ont reconnu. Et ils se sont débarrassés de l'autel parce qu'ils voulaient quand même garder leur dieu, c'est incroyable. Même devant la confirmation que Dieu est plus grand, certains refusent Dieu. Il y a des tas de gens qui savent que Dieu est quand même l'autorité, la vérité, mais ils choisissent un autre Dieu. Donc on a le choix. Hein. Et Satan lui-même, qui était au service de Dieu, a connu sa position, a connu la position de Dieu, mais il la conteste. Il essaye encore et encore de prendre sa place. Donc cette question d'autorité, de hauteur est importante, parce que pour nous, ça montre qu'en tant que chrétien, on devrait être attiré vers le haut, puisque Dieu est supérieur, Dieu est plus haut. Donc en adorant le Dieu le plus haut, ça te tire en haut. Et on sait que même physiquement, quand quelqu'un il est bien, il regarde en haut. Hein? Le regard est clair et net. La position même du corps est haut. Quand quelqu'un est mal, comment il est? Il est courbé, il regarde en bas. Il est attiré vers le bas. Donc en adorant le Dieu vers le plus haut, tu es attiré vers le haut. À ce moment-là, tu touches le ciel et sa gloire. On en a parlé de plusieurs manières, que Dieu ouvre les cieux, que... Donc, à quelque part, on est en connexion avec cette dimension-là, dont on a tellement besoin. Quelqu'un qui n'a pas cette espérance, qui a un plafond qui s'ouvre, qui a un ciel qui s'ouvre, il va être toujours opprimé par cette limite. Il pense justement que le haut est très bas, et puis qu'il est coincé, et puis finalement, il finit par se courber et à perdre cette dimension-là. Ça veut dire que tu es au-dessus des circonstances. Dieu nous dit qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Et qu'on peut être au-dessus des circonstances. Après, c'est une question de choix, une question de combat, une question de prière, une question de... Il peut y avoir des circonstances difficiles, mais Dieu veut nous mettre au-dessus. Au-dessus des problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de difficulté. Ils sont là. Mais Dieu nous a donné les moyens de les vaincre et d'être vainqueurs, et de passer par-dessus, ou de les combattre et de les vaincre. Ouais. Donc l'adoration, à quelque part, une vraie adoration, ça doit t'élever. Vous savez, quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre, d'être déprimé, il a beaucoup de peine à adorer. Et j'ai déjà remarqué ça souvent. On encourage les gens à chanter, à prier, à louer. Et des gens un peu déprimés, découragés, au lieu de louer, ils attendent que ça soit fini. Et puis après, ils disent, viens prier pour moi. Hein? Alors, on peut toujours prier pour quelqu'un. Mais tu peux avoir des gens dans l'église, ils vont passer 20 ans dans l'église et ils vont toujours demander qu'on prie pour eux. À quelque part, il y a un déclic qui s'est pas passé dans leur cœur. Sans dénigrer ce qu'ils vivent, leurs circonstances, peut-être des choses très très difficiles. Mais à quelque part, Dieu nous donne le choix et nous propose une autre position, une autre situation, une autre réaction. Donc quand tu t'élèves, tu trouves la présence de Dieu. Tu ne peux pas la trouver si tu restes au fond. C'est vrai que Dieu descend, et que Dieu est descendu sur terre, et que Jésus est venu jusqu'à nous, que le bon berger était chercher la brebis perdue. Il y a tellement de situations comme ça. Mais il y a un moment donné où Dieu nous relève et nous dit maintenant, lève-toi. Comme un père ferait avec ses enfants. Un enfant qui tombe. Moi, j'ai eu 4 enfants, je les sais toujours. Mais quand ils apprenaient à marcher, je me souviens qu'ils tombaient. Je les ai aidés à se lever 1 fois, 2 fois, 10 fois. Mais s'ils restent par terre, en train de pleurer, jusqu'à ce que je le relève, au bout d'un temps, je lui dis maintenant, c'est à toi de te lever. Je ne vais pas toujours être là pour te relever. Vous êtes d'accord? C'est de l'éducation. Parce qu'on comprend qu'il a les capacités. Mais si son esprit, son âme est trop basé sur le découragement, sur la dépendance, il va dire « Non, j'arrive pas, papa, lève-moi. » Hein? Et puis les chrétiens sont comme ça avec Dieu. Ils pensent qu'ils n'arrivent pas à se lever. Et Dieu dit « Mais je t'ai donné la force, je t'ai donné la capacité. Maintenant, lève-toi. » Et tout à coup, on se lève et on se dit « Waouh, je ne pensais pas que j'avais la force. Merci de m'avoir aidé. » Puis Dieu n'a rien fait, il t'a juste dit « Lève-toi. Hein? » Et je crois que ça, c'est l'esprit dans lequel on doit vivre cette louange, cette adoration. Et dans la présence de Dieu, ben, il y a tout. Je vais donner un exemple, guérison, délivrance, mais il peut y avoir beaucoup de choses. Hein? Il peut y avoir beaucoup de choses. Cette adoration te tire vers le haut. Ça te fait bouger, ça te fait monter, ça te fait changer de position. Et je crois que c'est très important. Dieu ne veut pas qu'on soit passif. Et dans l'Église, on est devenu beaucoup trop passif. Hein? Dieu veut qu'on soit actifs, les acteurs de notre foi. Dieu nous donne l'énergie, nous donne la force, nous donne l'esprit, tout ce qu'il faut, mais à un moment donné, c'est à nous de nous bouger. Et dans l'adoration, on prend une position spirituelle, mais aussi physique. Vous savez combien c'est aussi... Si on est dans l'adoration, qu'on reste assis, les bras croisés, courbés, on ne va pas vivre la même chose que si on se lève, que si on bouge, que si on lève les mains. Que si on danse, que si on vit quelque chose avec notre corps, vous êtes d'accord? La position même de notre corps exprime quelque chose. Et vous allez le voir aussi dans l'église. Si toute l'église est debout en train de taper dans les mains, de bouger la tête et d'être en rythme, la louange sera différente que si toute l'église est assise, les bras croisés, la tête courbée, chantonnant à peine. Donc la position démontre quelque chose. Et il y a une chose qui est très importante, qui est liée à cela aussi, c'est la question de la soumission. À qui tu te soumets? Ce n'est pas un enseignement sur l'homme et la femme ou le mariage, je laisserai ça à d'autres spécialistes, mais je parle vraiment de la question fondamentale par rapport à nos vies et à l'adoration. L'adoration est une question d'autorité et de soumission. Cela te rappelle ta place. Je crois que ça, c'est très important. Quand tu adores, tu reconnais quelque chose d'important. Tu choisis à qui tu veux te soumettre. Finalement, Dieu, c'est la force et la grâce de Dieu et de notre Seigneur, c'est de nous proposer un choix, de nous laisser libres. Il prend un risque énorme, mais en même temps, c'est tellement bon d'avoir ce choix et de choisir la bonne part, la bonne partie. Donc, on n'est pas obligé de se soumettre. Il y a des gens qui vivent toute leur vie dans la rébellion. Mais à quelque part, c'est difficile parce qu'il y a toujours quelqu'un contre qui se rebeller. Hein? Il y a toujours une occasion, que ce soit l'État, le gouvernement, les parents, la femme, le patron, les voisins. Il y a toujours une occasion de rébellion. Et ça nourrit leur système de vie. Parce que c'est facile de trouver quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi et puis de se mettre en conflit avec. Ou bien tu peux choisir à te soumettre. Parce que de toute façon, je pense qu'on peut tous poser la question, mais quelqu'un dominera sur toi. De toute façon, quelqu'un dominera sur toi, sur cette terre, à un niveau ou à un autre. Même quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus des lois, qui ne veut pas se soumettre à la loi, il va subir d'autres lois. Par exemple, s'il n'obéit pas aux lois du gouvernement, il va subir les lois au moins de la nature, des saisons, des temps, des horaires. Hein? Et puis s'il n'obéit pas à long terme aux lois, il va peut-être quand même subir certaines conséquences, finir peut-être en prison ou dans un cadre qu'on va lui mettre, parce que ce n'est pas possible. Donc à choisir, et c'est intéressant ce texte d'Ésaïe 26, une parole prophétique du prophète qui dit « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Donc, Ésaïe se fait le porte-parole de son peuple, d'Israël, qui dit, mais on a vu qu'il y en a d'autres. On a essayé avec Baal, on a essayé avec les Philistins, on a eu déjà des mauvais maîtres, on a déjà eu d'autres qui ont dominé. Mais finalement, si j'ai à choisir, je vais choisir toi. C'est toi que je vais invoquer. C'est-à-dire, si tu as le choix entre deux patrons, on te propose le même travail, le même salaire, tu sais qu'il y a un patron qui est bon et l'autre qui est méchant, tu vas choisir lequel? J'espère que tu es assez intelligent hein, pour choisir le bon patron, le bon maître. Et c'est ça la question. Je dois être soumis, alors qui c'est que je vais me soumettre? Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Ils disent, maintenant je suis libre, et ils pensent dans une attitude où je n'ai plus besoin de me soumettre. Tu es libre, mais tu es libre parce que tu es soumis. Tu comprends? La liberté vient de la soumission. Ton autorité va venir de ta soumission. Parce que ton maître va te déléguer une autorité. Donc, tu n'es peut-être pas le numéro 1, mais le numéro 2, il a de l'autorité grâce à sa soumission au numéro 1. Le numéro 1 lui dit, je te donne les clés. Si tu as un bon chef, un bon patron, il dit, ok, je te confie ma voiture, voici les clés. Tu n'es que le numéro 2, mais tu peux conduire la voiture du numéro 1. C'est bon ça, hein? Il te donne même les clés de la maison, il te donne les clés des champs, il te donne les outils, il te donne le salaire, il te donne beaucoup de choses. Et c'est exactement ce que Dieu nous propose. Mais Dieu nous donne cela pour autant qu'on reconnaisse son autorité. Et ce texte, vous le connaissez aussi, Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Beaucoup de chrétiens, ils enlèvent la première ligne, ils prennent la deuxième. « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Ils résistent. Puis ils s'étonnent que le diable ne fuit pas. Pourquoi? Parce qu'ils résistent avec leur force, avec leur personne. Moi, je vais résister, je résiste, Satan, loin, loin, loin. Puis Satan, il voit très bien ton cœur, ton autorité. Il voit très bien que tu n'es pas soumis au chef. Un soldat qui n'est pas soumis à son supérieur, il est en grand danger. Hein? Mais un soldat qui vient au nom de son patron, de son chef, de son autorité, il a une autorité. Donc, l'autorité nous vient parce qu'on se soumet à Dieu. Et comme je l'ai dit, à choisir entre plusieurs autorités, je sais que mon choix est vite fait. Dieu est la meilleure autorité à laquelle je peux me soumettre. Même les autorités des hommes, si bons soient-ils, même si tu es sous l'autorité d'un bon patron, d'un bon père, d'un bon maître, d'un bon juge, ça ne voudra jamais l'autorité de Dieu. Donc, qui doit être élevé et adoré? Qui doit être adoré et élevé? Parce que quand on se soumet, on met quelqu'un au-dessus de nous, finalement. C'est ça la question. Et c'est tout la problématique, non, la réalité de l'adoration. C'est qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Et ça, ça va vraiment à l'encontre de notre société qui veut se rebeller contre tout. D'ailleurs, mai 68, qui est une grande révolution en Occident, c'est ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître. Je me soumets à plus personne. Puis on voit les résultats, hein, qui sont assez catastrophiques. Même dans l'éducation, jusque dans l'éducation, où on a dit, ben là, les enfants, ils font comme ils veulent, ce qu'ils veulent. Et puis maintenant, une génération après, les gens commencent à comprendre que c'est un problème. Parce qu'un enfant qui ne se soumet pas à ses parents, il n'a pas la capacité de gérer sa vie. Donc, il apprend à plutôt faire beaucoup de bêtises. Et puis après, le cadre, il n'arrive plus à le supporter. Et ça devient très difficile pour sa vie, pour son travail, pour son éducation. Et maintenant, les grands psychologues, les grands professeurs et les grands enseignants, ma femme est enseignante, elle va à des cours de formation continue, ils disent, je crois qu'il est important de donner un cadre à l'enfant. Voilà ce qu'ils ont redécouvert après une génération où on avait enlevé tous les cadres. Maintenant, ils disent, oui, il faut apprendre aux enfants à obéir. Voilà ce que disent les professeurs de nos écoles très sophistiquées. Oui, je crois que l'avis des parents est important. Parce qu'avant, on disait, non, les parents, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Laissez les enfants s'exprimer, s'exploiter, faire tout ce qu'ils veulent. C'est tellement bien pour la liberté. Dieu a prévu un cadre pour nos vies. Et on a besoin d'un cadre. Hein? Donc, on a besoin de ce cadre, même en tant qu'adulte. Donc, la question, c'est qui doit être élevé et adoré au-dessus de nous? Alors bien sûr, nous on le sait en tant que chrétien, on est là parce qu'on est convaincu de ça. Mais c'est important de le réaliser que quand tu adores, tu élèves quelqu'un au-dessus de toi. Et c'est toi qui choisis. Tu as le choix, Dieu ne va jamais t'obliger. Dieu ne va jamais s'imposer. Il est là comme un bon maître. Puis il dit, si tu veux venir dans mon entreprise, ben viens. Moi je suis un bon patron, je suis un bon maître. Mais à toi de choisir, si tu préfères travailler avec quelqu'un d'autre qui t'offre peut-être apparemment un meilleur salaire, essaye. Mais les conditions de travail sont beaucoup moins bonnes. Les conditions de relation sont beaucoup moins bonnes. Et la réalité, à long terme, sera beaucoup moins bonne pour toi. Philippiens 2, versets 9 à 11. Vous connaissez aussi ce texte fondamental qu'on doit saisir et prendre. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, son nom est au-dessus. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Hein? Quand ils ont écrit ce texte, il n'y avait pas encore des avions ni des sous-marins. Hein? Mais pourtant, il dit déjà que sur la terre, sous la terre, partout dans l'univers, tu vas apprendre la même leçon. Même si tu es pilote d'avion puis que tu crois que tu es très intelligent. Même si tu fais des études, même si son nom est au-dessus de tout. Et c'est nous qui allons choisir de nous soumettre à lui. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Jésus nous a montré l'exemple. Il s'est soumis au Père. Il est venu sous l'autorité du Père. Il a été sous sa toute puissance, sa toute majesté. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on arrive à une confrontation de l'adoration. Ça, c'est nouveau. Depuis quelques années, ça devient de plus en plus fort. Je dirais, surtout en Occident, je pense qu'en Afrique ou ailleurs, c'était peut-être plus clair et plus évident. Mais l'adoration amène une confrontation. Et on a exactement la grande discussion aujourd'hui avec les minarets. Hein. C'est une question d'adoration qui se pose là. Alors certains, ils veulent pas le voir en face. Ils veulent le repousser en disant, mais non, c'est pas si grave, c'est juste des bâtiments, c'est une question d'architecture. Hein. Mais c'est une question d'adoration. Et on va le voir. La culture est influencée par un culte à un dieu, c'est-à-dire par l'adoration. Le mot culture, on a oublié ça. Mais quand les gens, même à la radio, à la télévision, ils disent c'est une soirée culturelle, c'est un moment de culture, c'est une exposition culturelle. Alors on montre peut-être la musique, des images, des photos de l'ancien temps, on explique ce qui était comme ça. Mais si vous allez creuser, vous allez toujours trouver derrière un culte. Regardez les cultures, la culture égyptienne, la culture grecque, la culture romaine. Mes enfants, ils étudient ça à l'école. Quand on étudie ça, on voit toujours, ils étudient toujours les dieux de cette culture. Toujours. Et les rites de ces cultures étaient influencés par les dieux de ces cultures. Ils faisaient certaines choses parce qu'ils avaient certaines croyances. Et peut-être que bien aujourd'hui même, si on a perdu un peu l'essence, si on creuse un peu, on retrouve cela. Dans les cultures celtiques, même les cultures occidentale, orientale, on va toujours trouver un dieu là derrière. savez que c'est étonnant, mais je crois que j'ai entendu ça, que dans la culture suisse, le yodel, c'était un chant de louange. Les chants que chantent les bergers dans les montagnes avec la musique très typique. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, les chants de yodel, la plupart, ils mettent en valeur la nature. Ils disent peut-être pas Dieu, mais souvent, ils mettent en valeur les beautés de la création, du soleil, du jour, etc. Et au début, il semble que c'était des chants de louange. Devant la grandeur de Dieu, ils sont mis à chanter des chants improvisés et que c'était un chant d'adoration. Donc là, il y a une bonne culture. Il y a quelque chose de bon qui reste. Donc peut-être qu'on va se remettre à chanter du yodel à l'église, hein? Dieu voulant, certains seront surpris, mais d'autres vont être touchés par ça. Hein? À vous de choisir. Le 21e siècle est religieux. Ça a été prédit même par des hommes de ce monde. André Malraux, un grand prophète français, un écrivain français, a dit le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. Soit ça sera pas du tout, soit ça sera totalement. Et moi qui suis né à la fin du 20e, en 1961, à cette époque-là, dans la jeunesse, les gens disaient Dieu est mort, c'était mai 68, Dieu n'existe plus, c'est fini, plus de religion, les gens quittent l'église. On va oublier tout ça. Et puis depuis 10-15 ans, c'est le contraire qui se passe. Hein. De plus en plus de religieux, de plus en plus de nouvel âge, de pensées philosophiques, on parle de Dieu à la radio, à la télévision, les gens se posent des questions. Donc on est dans une période religieuse. Et aujourd'hui, l'adoration influence même les décisions politiques, économiques et médiatiques. Avant, tu voulais avoir une interview pour parler de Dieu, les médias tournaient la page, ils ne venaient même pas. Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de polémiques, mais on commence à avoir des décisions politiques à cause de l'adoration. La question des minarets, on a eu avant la question du voile. Hein? Combien de fois en France, aux informations, ils ont parlé du voile? Du voile, si c'est pour, si c'est contre, on est païen, on est chrétien, non, on est séculier, non, on est une culture, comment ils disent ça en France, laïque, voilà. Puis c'est la religion du laïque maintenant. Hein. Mais la politique discute si c'est autorisé ou pas, et finalement, ils doivent prendre une décision. Ils disent, bon, on ne veut pas prendre position pour ça, on tolère, mais en tolérant, on prend une position pour. Puis après, les autres disent non, mais c'est trop, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc on dit non, après on fait des lois, on interdit certaines choses, puis les autres sont rebelles. Et ça devient difficile, ça amène des vrais conflits. Comme il y a eu dans toutes les sociétés au moment où l'évangile est arrivé. L'évangile qui est arrivé avec les missionnaires en Amérique du Sud, par exemple, ça a amené des grands conflits, même des bains de sang, bien sûr, terribles. Parce qu'il manquait peut-être un petit peu d'intelligence, de sagesse, et puis ils ont amené le côté humain, et puis il y a eu un gros mélange entre ce que Dieu voulait faire et ce que les hommes voulaient faire, ils ont profité, etc. Et en Afrique aussi, bien sûr, il y a eu beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Mais quand même, l'adoration, c'est une des clés. La confrontation commence et recommence, je dirais même, comme du temps d'Élie et des autels à Dieu ou à Baal. Vous connaissez cette histoire, hein? Sur le mont Carmel, il y avait un rocher là-haut, et Élie, il en a marre de voir le peuple qui tergiverse, qui va de temps en temps offrir les sacrifices au temple, puis de temps en temps, il va adorer les Baals. Hein? Et puis, il mélange un petit peu tout. C'est le grand syncrétisme, et ça se passe encore beaucoup. Donc, dans 1 Roi 18, verset 21, voilà ce qu'Élie dit. Il a dû faire une annonce avec le micro à la radio. Je sais pas, mais en tout cas, très fort pour que les gens l'entendent. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ils n'ont pas tellement aimé sa question-là. Hein? Ils n'ont pas tellement aimé qu'ils disent, maintenant vous devez choisir. Oui, mais tu sais, c'est bien un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, tout ira bien. Hein? Un petit peu de Dieu, un petit peu de Jésus, un petit peu de Bouddha, un petit peu de Mahomet, un petit peu de Gandhi, et tout ce que tu veux. Gros mélange. Non, tu dois choisir. Et c'est ce qui s'est passé exactement à ce moment-là. Vous connaissez l'histoire. Il a convoqué les prophètes. Il a dit, ben, Seigneur, maintenant, il faut que tu prouves. Il faut que tu montres la différence. Moi, je ne supporte plus que les gens ne choisissent pas. Donc, confirme ta présence. Et cette confrontation, ben là, ce n'était pas dans la tête. Hein. Ce n'était pas un débat politique à la radio où on discute, où on partage les idées. C'était une confrontation réelle avec deux autels, du bois, des animaux et du feu. Et Élie, il est tellement convaincu, tellement fort, qu'il se moque des prophètes de Baal. Vous savez, c'est eux qui commencent. Hein. Ils font leurs incantations, ils invoquent leur Dieu, il ne se passe rien. Ensuite, ils se font des incisions dans la peau. Et Élie, vous savez ce qu'il leur dit ? Hé, votre Dieu, il est trop occupé, il vous a oublié. Et en hébreu, ils sont encore plus directs. Hein. C'est marqué littéralement, peut-être qu'il est aux toilettes. C'est ça qu'il dit. Hein? En français, ils ont bien arrondi pour dire les choses poliment. Mais Élie se moque de lui, dit, votre Dieu, il est aux toilettes, il est occupé, il n'a pas le temps de venir répondre à vos prières. Hein? Il faut lire des fois, creuser dans la Bible ce qu'il est dit, vraiment. Donc, et puis ensuite, lui, il invoque son Dieu, il demande encore d'amener de l'eau. Et vous savez, en Israël, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein? En plus, il était sur une montagne, là, tout en haut. J'étais sur le mont Carmel. Il y a une église là-bas magnifique. Il y a des chrétiens qui ont construit un tabernacle, une église. Et ils font la prière, la louange. Ils ont un centre de réhabilitation. Ils ont une église qui accueille des Arabes et des Juifs. C'est une église vraiment prophétique. Qui fait une œuvre magnifique avec David Davis, un pasteur américain qui maintenant est juif, et sa femme Karen, qui fait la louange. Donc, je les connais. Ils font un travail merveilleux. Et ben là-bas, ils n'ont pas beaucoup d'eau. Ils ont dû envoyer des gars chercher de l'eau pour encore arroser l'autel avant que Dieu mette le feu. Donc, ça a duré. Hein. Ça a duré du temps, cette confrontation. Ils ont dû voir chaud, là. Puis après, ben, il a encore égorgé tous les prophètes de Baal. Hein. Ouh là là, c'était une grosse aventure. Donc, on ne va peut-être pas arriver dans la même situation, mais quand même, la question de la confrontation va arriver. Elle va arriver de plus en plus souvent. On va être obligé de prendre position. Et qu'est-ce qui va influencer les choix politiques des politiciens ou des leaders ou des gouvernements? C'est finalement qui ils adorent. Ils ne vont peut-être pas le dire à la radio ou à la télé, mais s'ils acceptent une chose ou ils refusent une chose, dans le fond, dans leur cœur, c'est ils démontrent en qui ils croient, n'est-ce pas? En qui ils croient et à qui ils donnent la valeur. Et c'est un grand débat, un grand défi qui va arriver toujours plus. Donc, réaliser la portée de l'adoration. Finalement, même en tant que chrétien, il y a des chrétiens, ils ne veulent pas prendre position dans l'adoration. Ils disent, oui, on est chrétien, mais... Voilà, on tolère toutes les adorations. Mais ce n'est pas possible. À un moment donné, Dieu va dire, stop, maintenant dis, quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Et cet autel, je le pose d'une autre manière aussi, est-ce que c'est un autel à la vie ou à la mort? Je vous ai déjà soulevé cette question-là dans plusieurs situations. Et on voit que cette chose est récurrente, elle vient très souvent dans la Bible. Il y a eu plusieurs fois cette confrontation avec Moïse et Pharaon. Moïse demande la liberté pour son peuple et Pharaon ne veut pas. Pharaon résiste et la conséquence, c'est que Pharaon détruit et tue une génération d'enfants. Hein? Ça, c'est à la naissance déjà de Moïse. Pardon, c'est avant que Moïse vraiment rentre dans la confrontation. Mais déjà, l'ennemi, au travers de Pharaon, connaissait les plans de Dieu, ou anticipait, ou comprenait que Dieu était en train de faire quelque chose, qu'il allait envoyer un sauveur. Il faut détruire ce sauveur. Donc, on va tuer tous les bébés. Et Dieu sauve Moïse, qui deviendra le sauveur d'Israël. Hein? Mais toute une génération d'enfants a été tuée, a été envoyée à la mort, à cause de la vie que Dieu voulait redonner à son peuple. La même chose avec Jésus. Jésus Hérode, Matthieu 2, verset 16. Jésus va naître. Hérode sait, il comprend, il saisit quelque part qu'il va arriver. Et il détruit, il n'arrive pas à le trouver et il tue une génération de bébés. Il les détruit et il les tue. Et ça montre que notre ennemi, lui, il ne fait pas de quartier. Hein. Il y a des moments où on dit, mais oui, ce n'est pas si grave, Satan, on ne s'en occupe pas, tout ira bien. Il y a des moments où il faut le confronter. Il ne faut pas avoir peur parce que lui, il veut détruire. Il veut la mort alors que Dieu veut la vie. Et bien sûr, aujourd'hui, on a la même question qui se passe. Le retour de Jésus est annoncé pour bientôt. Je ne vous ai pas encore trouvé la date, mais on sait qu'on s'approche des derniers temps. Et aujourd'hui, on a une génération entière d'enfants, et même plusieurs, qui sont offerts sur l'autel au travers de l'avortement. L'avortement, c'est un esprit de mort qui est là, qui détruit une génération. Parmi tous ces enfants qui sont morts, qui ont été massacrés par l'avortement, il y aurait eu peut-être des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des missionnaires, des génies, des savants, des gens qui auraient pu apporter quelque chose que Dieu avait prévu pour cette terre. Mais ils ont été tués avant même de naître. Satan a une œuvre uniquement de mort. Alors Dieu, lui, il nous veut vivants. Hein? J'ai déjà cité ce psaume 115, verset 17. « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. » Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. N'attendez pas de quitter cette terre pour vous mettre à le louer et à l'adorer, mais que la vie se manifeste. Et la louange, c'est un des signes de la vie. Si tu veux voir la vie qu'il y a dans l'église, eh bien, en tout cas, regarde déjà comment ils louent. Hein? Ce n'est pas les chants qui chantent, le nombre de chants qui chantent, parce que des fois, il y en a qui crient très fort, mais on sent qu'il n'y a pas la vie. La vie se manifeste, entre autres dans la louange. Matthieu 22, 32, Dieu se présente comme ça, c'est son nom. Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. Pourtant, ceux-ci sont morts. Alors, il précise, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. J'ai été avec eux quand ils étaient vivants, et maintenant, je suis le Dieu toujours des vivants. Même si je suis aussi ce Dieu de l'histoire, ce Dieu du passé, je suis le Dieu vivant. Donc, ce qui me fait dire que Dieu veut la vie. Dieu est un Dieu de vie. Et il veut redonner la vie à tout ce qui était mort, tout ce qui est encore mort. L'adoration ou la religion, qu'est-ce qu'on préfère? Vous savez, hein, quand je le mets comme ça, c'est assez évident. Mais peut-être qu'il faudra analyser certaines de nos pratiques religieuses pour comprendre que parfois, ce n'est pas vraiment de l'adoration, puis c'est plutôt de la religion. Ça signifie que dans l'Église, est-ce qu'on va se taire ou est-ce qu'on va s'exprimer? Si tu es mort, tu ne peux plus parler. Si tu es vivant, tu t'exprimes. Rester sans bouger ou bouger pour lui. Donc ce message que je vous donne, je les donne dans les églises. Hein. Je n'ai aucun complexe. Je les prêche le dimanche matin dans plusieurs endroits. Et je crois que c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on entre là-dedans. Et souvent, je commence le culte en prêchant et je fais la louange après. Comme ça, on peut tout de suite mettre en pratique. J'attends pas qu'ils se réveillent. Je leur donne tout de suite l'occasion de se réveiller. Critiquer ou adorer? On a le choix. La plupart des gens, là aussi, on dit oui, mais je critique juste un peu, puis j'adore un peu. Attention, attention. On justifie tellement de fois des choses qui ne sont pas justes. Il ne faut pas critiquer, vous êtes là pour adorer. Louange vivante ou louange traditionnelle? C'est pour ça que j'ai donné ce nom à mon groupe depuis des années, Louange Vivante, parce que quelqu'un me disait, mais c'est quoi votre groupe? Vous faites quoi? Je dis, ben, on fait de la louange, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est différent? Je dis, je sais pas, c'est la louange vivante, quoi. J'ai envie qu'on soit vivant, qu'on démontre qu'on est vivant. Donc, ça se démontre par, pas seulement par la bouche et des chants, ça se démontre aussi par nos corps, par nos gestes, par notre expression corporelle, musicale, quoi. Donc, église vivante ou église morte, bon, c'est toujours la même question que je pose de plusieurs manières. Oui? Non, justement pas. Mon concept, c'est moi, je suis quelqu'un qui forme des gens, donc j'implique toujours des gens que je forme avec moi. Donc, moi, je suis à plein temps, on est une équipe de 6 à Jeunesse en Mission, donc il y a quelquefois des gens de l'équipe de GEM, mais 80% des gens qui sont avec moi ne sont pas des gens de Jeunesse en Mission, ce sont des gens des églises, mais que j'embarque et que je fais un peu... bouger, sortir de leur cadre et ensuite je les renvoie dans leurs églises où ils peuvent. Donc souvent c'est un équilibre entre les deux, quoi. Ouais. Mais de cette manière-là, je forme des gens sur le tas, comme on dit, sur le terrain. Pas seulement de la théorie, je dis bon, tu veux apprendre la louange, viens avec moi. Et puis on fait un voyage ensemble, on va dans une église, on fait un week-end et puis ils jouent, ils chantent et puis on apprend à vivre la foi, la louange dans toutes les circonstances, quoi. Parce que souvent, sur scène, c'est une chose. Les gens, ils voient juste qu'est-ce qui se passe sur scène. Mais je peux vous dire que le plus difficile, ce n'est pas sur scène. Même si, bon, il faut être au point, il faut répéter, travailler. Le plus difficile, c'est avant. C'est se lever tôt, c'est faire 4 heures de voiture ou 5 heures de voiture. C'est installer la sonorisation, c'est régler les micros. C'est pas se faire engueuler par le gars de la sono qui a mal réglé, qui nous casse les oreilles parce qu'il y a un Larson qui part. C'est gérer le repas froid qui arrive à la dernière minute. C'est se dépêcher de répéter parce qu'on commence dans 5 minutes. Et puis après, être dans la louange avec le sourire. Hein? La réalité de la vie, c'est aussi ça, quoi. C'est tout ce qui se passe dans la journée. C'est pas juste chanter. Hein? Et puis pour vous aussi, quand vous arrivez au culte, comme je l'ai dit, quand on conduit la louange, quand on implique la louange, le dimanche matin, on doit se lever pour la louange. C'est le jour où il y a tout qui va de travers. Hein? Peut-être que le lait il coule sur le feu, et puis que les habits se déchirent, et puis que les enfants crient, et puis que la voiture démarre pas. Il y a tous ces combats. Comment on va réagir? Et je pense que apprendre à adorer. Dans ces circonstances-là, ou malgré les circonstances, va t'apprendre beaucoup de choses. Donc, Dieu ressuscite tout ce qui est mort. C'est le Dieu de la résurrection. On le chante. On a des chants qui le disent. Donc, il veut ressusciter tout ce qui est mort. Moi, je me souviens, je peux vous dire, franchement, quand je me suis converti dans l'église évangélique, la musique, elle était morte. Il y avait juste des cantiques avec un piano et qui commençaient tous sur le premier temps et finissaient tous sur le dernier temps. Hein? Mais il n'y avait pas de rythme, pas d'autres instruments, pas de danse. Pas d'expression corporelle, personne qui levait les mains, personne qui bougeait, personne qui criait, rien. Alors, heureusement, j'ai trouvé... moi, j'ai commencé à lire la Bible. Je dis, mais là, il criait, là, il dansait, là, il chantait, là, il chantait des chants nouveaux, là, il bougeait, mais il faut qu'on y aille. Bon, j'étais dans un groupe de jeunes, donc avec les jeunes, facile, on y va. On essaye, on continue et on s'est lancé. Et des fois, je fais ça dans un séminaire, dans l'église. Je dis, on va faire tout ce que la Bible dit. On va vraiment mettre en pratique. Vous êtes d'accord? Tout le monde dit, oui, oui. OK, alors on y va. Alors, je lis, je prends les psaumes et je lis. Maintenant, c'est écrit, poussez des cris de joie. On va tous pousser des cris de joie. Ouais. Non, un cri de joie, vraiment. Criez comme si vous, votre meilleure équipe avait marqué le but de la finale de la Coupe du Monde. Ouais. Et puis toute l'église va crier. Il y a même les murs qui tremblent parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. Ils se font peur à eux-mêmes quand ils crient. Hein? Mais une fois que tu l'as fait une fois, après tu oses le faire deux fois, puis trois fois, puis quatre fois. Parce qu'après tu commences à comprendre. Mais oui, c'est dans la Bible. Pourquoi je ne l'avais jamais fait? Parce que personne ne l'avait jamais fait. Parce qu'on pensait que ce n'était pas bien. Danser, la même chose. La première fois qu'il faut danser, t'as les gens, ils n'osent pas danser. Parce qu'ils pensent que ça va être comme dans le monde. Oh là là, la discothèque qui vient dans l'église. Non, 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 non. C'est dangereux, c'est le diable. Je dis non. La Bible dit danser, elle ne dit pas discothèque. Elle dit danser. Ça veut dire quoi danser? Dire bouge ton corps. Bouge avec ce que tu as. Alors, je me souviens d'un pasteur anglais qui était venu dans notre église, puis qui nous a dit, je vais vous apprendre à danser. Puis on regarde le pasteur, il était un petit peu âgé. Il avait un bon bidon là devant, comme ça. Il n'était pas très danseur, quoi. Hein? Il dit, je vais vous expliquer comment on fait. On se met debout, tout le monde debout. Vous levez un pied. OK, on lève un pied. Et puis avant que le pied tombe par terre, vous levez l'autre pied. Ah voilà, c'est bon, vous avez commencé à danser. Continuez maintenant. C'est pas compliqué. Les Européens, ils sont compliqués des fois. Hein? Les Africains, ils rigolent, c'est bien. Parce que vous bougez déjà depuis la naissance, c'est bien. Continuez et apprenez-nous à bouger. Hein? Quand je vais dans des conférences où il y a des Africains et des Blancs, là, en même temps, je vois les Blancs danser, je dis, on dirait qu'il y a des morceaux de bois, là, qui se déplacent. Hein? Parce que vous, votre corps, il est bien à l'aise pour danser. Alors, vous avez quelque chose à nous donner, et nous, on a quelque chose à apprendre, et c'est bien qu'il faut mélanger tout ça. Donc, voilà, il faut essayer les choses. Il faut bouger, il faut se lancer. Puis une fois que tu as compris que ton corps, il peut bouger dans la louange, tu dis, mais c'est tellement bon d'être libre. Quand quelqu'un dit, bouge plus, ça t'embête vraiment. Hein? Parce que la Bible, elle te dit pas, bouge plus. Elle te dit au contraire, bouge, bouge, lève-toi, lève les mains, lève les yeux, crie de joie, pousse des cris de joie. Donc là, tout d'un coup, quand on entre là-dedans, ça ouvre une nouvelle porte, une nouvelle étape, une nouvelle dimension. Donc il faut, Dieu veut ressusciter ça. Donc dans chaque église, c'est différent. Dans certaines églises, ils chantent très bien, mais il y a un autre problème. Ils sont bloqués peut-être pour la danse. Dans d'autres, c'est la danse, c'est bon, mais ils n'arrivent pas à chanter librement, ou ils n'arrivent pas à utiliser les instruments. Ou, voilà, on a chacun des choses à aller plus loin. Mais je crois que tout ce qui est mort, Dieu veut le ressusciter. Hein? Donc, si un secteur, vous voyez, où il y a la mort, comme on l'a lu dans le psaume 115 aussi l'autre jour, c'est l'idolâtrie qui amène la mort. Hein? Quelqu'un qui veut entendre, qui ne l'entend pas, parce que l'idolâtrie amène, ça bouche les oreilles. Donc, Dieu veut ouvrir cela pour qu'on puisse rentrer dans ces choses et aller plus loin. Donc, essayer, avancer, amener la vie. Et en amenant la vie, c'est chaque fois un coup contre la mort. Un coup contre l'ennemi qui est l'esprit de mort. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. Donc, Dieu veut des sacrifices vivants. Je vous en ai déjà parlé. Sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Et vous pouvez noter juste ces références. On ne va pas les lire en détail, mais je vais juste confirmer un petit peu ce que c'est d'être un sacrifice vivant. Je résume certaines choses, puis d'autres, je les donne un peu plus en détail. Donc, les sacrificateurs, ils étaient les Lévites. Ils avaient l'Éternel pour héritage. Donc, dans un sens, il leur manquait certaines choses. Ils n'avaient pas toutes les autres choses. Mais au moins, ils avaient compris une chose, c'est que Dieu était leur part, leur héritage. Les autres, ils avaient des champs, ils avaient des maisons, ils avaient peut-être d'autres richesses matérielles. Pour les Lévites, il a dit, c'est l'Éternel, votre héritage. Ça veut bien dire, ça montre un exemple au peuple, Dieu est plus important que les choses matérielles. Et puis, si vous avez déjà ça, c'est un bon héritage. Puis maintenant, dans le Nouveau Testament, on est tous des Lévites. Donc, on a tous cet héritage de l'Éternel. Et puis, on peut être des pierres vivantes, regardez. C'est quand même étonnant. Vous avez déjà vu des pierres vivantes, vous? Vous en trouvez dans vos pays? Dans vos champs? Dans vos prés? Non, ça n'existe pas. Dieu, il s'amuse à faire des paradoxes comme ça. Hein? La même chose, un sacrifice vivant. Vous avez déjà vu un sacrifice vivant? Un sacrifice, il est mort. On le tue, on le massacre, on le brûle, on le consomme. Puis Dieu dit, pierre vivante, sacrifice vivant. Ça montre que même les choses les plus mortes, elles peuvent être vivantes pour Jésus. Hein? Et il veut mettre la vie dans ces choses-là qu'on pense que c'est pas possible. Donc le sacrifice vivant, je répète, c'est Isaac. Isaac qui accepte de monter sur l'autel qui est déjà prêt. C'est soumettre à son Père céleste. Isaac, il s'est soumis à Abraham. Hein? Abraham lui a dit, monte, l'autel est prêt. Isaac a accepté et il était d'accord de le faire. Donc, donner ce qui est vivant à Dieu, notre bouche, nos mains, nos pieds, notre corps. Il y en a qui donnent très bien leur bouche, ils parlent très bien, mais tout le reste, ils ne le donnent pas à Dieu. Dieu veut servir ton corps aussi. Et puis aussi, apprendre à détruire tout ce qui est mort en nous. Et laisser Dieu redonner la vie à tout secteur. Donc, l'autel d'adoration, ça va être un autel vivant. Les gens, ils aiment tellement voir les choses mortes. Ils vont visiter des statues, ils vont visiter des pierres. Ils vont dans les pays faire des photos des choses mortes. Même en Israël, les chrétiens vont en Israël, ils vont voir tous les trucs qui sont morts. Les vieux trucs. Ils disent, oh, Jésus a peut-être marché là, là, il y a un caillou, là, il y a une poussière, ou peut-être Jésus a passé. Hein? Moi, j'ai vu des choses comme ça, c'est pas ça qui m'intéresse. En Israël, je vais voir les pierres vivantes, je vais voir les chrétiens en Israël. Je vais voir ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Je vais voir des églises, je vais voir des juifs messianiques, je vais rencontrer comment vous priez, comment vous vivez avec les Arabes, comment vous réagissez dans cette situation-là. C'est ça qui est intéressant. C'est la vie que Dieu met dans ce pays. Et la vie que Dieu redonne, le Saint-Esprit que Dieu redonne à ces gens. Bien sûr, dans le contexte des pierres mortes, là-bas, c'est encore plus fort. Hein, dans ces situations-là, dans ces confrontations. Mais ce n'est pas la mort qui est intéressante pour Jésus. Donc, toute notre église, on peut la baser sur la mort, sur le passé, sur l'histoire, ou on peut la baser sur la vie à venir, sur la résurrection, sur ce que Jésus veut faire. Je crois que le choix est clair et qu'on va rester vivant tant qu'on est sur cette terre, tant que Dieu nous prête vie. Manifestons cette vie et gardons cette vie. Amen. Ça avance, on est déjà là.